Bien, bonsoir à toutes et tous. On vous demande de prendre place maintenant. On va démarrer. Merci.
Bonjour à tous. En tant que président du Collège des Bernardins et aussi évêque auxiliaire à Paris, je suis très heureux d'accueillir tout la nouvelle promotion de l'IHEMR dans ce lieu. Et vous êtes particulièrement chez vous en étant au Collège des Bernardins, puisque ce collège est un lieu dédié à la rencontre, un lieu où l'Église catholique a voulu que nous puissions tous, avec ce que nous sommes, nos capacités, nos convictions, nous retrouver autour de la question de l'homme et de son avenir. Ça donne une grande multiplicité de lieux de réflexion, puisqu'il y a plus de 250 chercheurs qui travaillent ensemble à travers différents départements de recherche, aussi bien en bioéthique, en économie. On a beaucoup travaillé sur la question de la propriété de l'entreprise, sur la question des administrateurs salariés et sur d'autres questions encore. Et dans les lignes éditoriales du Collège des Bernardins, il y a d'une façon très marquée la relation avec les autres religions. Parce que non seulement c'est une question d'actualité, mais c'est une question qui est vraiment interne à notre conviction qu'il est important dans la situation de la société actuelle que nous puissions nous connaître, d'ailleurs vous verrez entre nous, entre les différents intervenants que nous nous connaissons bien, mais aussi que nous puissions avoir ce dialogue qui permette à la société de pouvoir se construire dans l'unité. Car l'unité est toujours la source de la paix et la connaissance mutuelle, ce qui permet à chacun de pouvoir se rencontrer. Dans les différentes activités du Collège des Bernardins, il me faut aussi nommer notre chaire qui est actuellement une chaire de recherche sur l'homme au défi du numérique. En effet, au cœur du Collège des Bernardins, le point de convergence, j'allais dire le point focal de tout notre travail, de toute notre réflexion et même des expositions ou des concerts de musique, c'est toujours la question de l'homme et de son avenir. Quel homme voulons-nous? Quel homme construisons-nous? Et dans quelle société? C'est cette question-là qui est finalement ce qui nous préoccupe. Et ce n'est pas un sujet de préoccupation spécifique d'une religion ou de l'autre. C'est vraiment une question spécifique à nous tous, parce que nous sommes ensemble, non seulement au service du monde d'aujourd'hui, mais principalement au monde que nous construisons pour les générations à venir. Et donc, il n'y a pas de réflexion juste sur l'homme si cette question de l'homme n'est pas posée dans notre responsabilité dans l'avenir. Donc, soyez les bienvenus au Collège des Bernardins et je laisse tout de suite la parole aux différents administrateurs de l'IHEMR. Merci.
Alors, je prends mon papier. Voilà. Monseigneur et Monsieur le Président, bonsoir. Monsieur le Président du Conseil français du culte musulman, Monsieur le Rabbin représentant le Consistoire central, Madame Strantz représentant le Président François Claveroli, Monsieur le Sénateur, Madame la Présidente de l'INH-ESJ, chers partenaires, notamment ce soir le Collège des Bernardins que nous remercions chaudement, chers amis, chères auditrices et auditeurs, et tout particulièrement ceux de la troisième session nationale qui finissent ce soir leur parcours de formation après un an passé à l'IHEMR. Bonsoir, bienvenue. Nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir ce soir, ainsi que Monsieur le ministre de l'Intérieur et des Cultes, qui nous rejoint tout à l'heure. trois ans, presque jour pour jour, après le lancement de l'IHEMR. Et après trois sessions nationales de réaliser, dont la dernière donc, se terminant ce soir, nous nous disons que bien du chemin a été parcouru pour arriver ici, avec donc M. le ministre qui nous honore de sa présence. Je voudrais donc saluer et remercier ceux qui nous ont toujours soutenus et ont permis cette réalisation. Le Bureau central des cultes et l'Observatoire de la laïcité pour l'État, la Conférence des évêques de France, la Fédération protestante de France, le Consistoire, le Conseil français du culte musulman, le Conseil économique et social avec M. Delevoye, mais aussi tous nos fidèles partenaires, graphistes, banquiers, assureurs, il y en a quelques-uns qui sont présents ce soir ici. L'IHEMR, c'est un écosystème bien agréable qui évolue avec des partenaires de confiance. Je rappelle aussi que l'IHEMR, c'est 100 intervenants experts et 30 lieux partenaires, dont le Collège des Bernardins, où nous sommes ce soir. Bien sûr, merci tout spécialement de ma part et de celle de Cyril de Monclin, responsable pédagogique de l'Institut, à tous ceux qui font vivre l'Institut au quotidien, bénévoles, services civiques ou salariés. En trois ans, avec son offre unique sur le domaine des religions et la laïcité, l'IHEMR a trouvé son public. Élus, dirigeants, directeurs diversité, journalistes, aumôniers militaires, cadres de la fonction publique, consultants indépendants, responsables associatifs, universitaires, etc. Ce, dans tous les secteurs possibles. Il convient de relever que cela s'est fait avec très peu de moyens et tous privés. Pour autant, on peut se demander si cette réussite est une surprise. Avons-nous fait quelque chose d'extraordinaire ou, comme je l'entends parfois, quelque chose de miraculeux ? Pas du tout. En fait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en 2013, en France, il n'y avait rien de ce type qui existait. Il y avait des IHE, des instituts de hautes études, pour tout, presque, mais il n'y avait rien sur la laïcité et les religions. On était en 2013. Et encore aujourd'hui, nous sommes les seuls à proposer une formation conçue spécifiquement pour les responsables afin qu'ils disposent du socle culturel qui est nécessaire à tout honnête homme et honnête femme pour comprendre ces sujets. Dans notre époque de profonde mutation, cette hypermodernité qui est à la fois enthousiasmante et terrifiante, matrice d'une nouvelle ère aux contours encore flous, un espace qui permet un accès objectif et référent sur tous ces sujets, était bien évidemment totalement indispensable. Indispensable pour comprendre ce qui s'est passé et ce qui se passe aujourd'hui. Indispensable pour connaître l'autre et faire un bout de chemin vers lui pour un meilleur vivre ensemble. Indispensable enfin pour accéder aux sources telles que le firent les premiers humanistes, peut-être y puiser, en tout cas s'en inspirer. En effet, plus l'époque est incertaine, plus les simplismes ou les simplifications sont séduisants, plus il est nécessaire de se nourrir pour embrasser la complexité, afin de construire une vie bonne, par exemple en allant chercher dans notre histoire ce qui a fait notre grandeur d'homme. Dès lors, il n'est pas étonnant que l'IHEMR soit devenu ce que nous voulions, l'indispensable outil dont devait se doter la République pour permettre à ses responsables de disposer du minimum de socle de connaissances culturelles sur les principales religions, sur le fait religieux et bien évidemment sur la laïcité. En 2017, le temps est probablement venu de passer à un modèle plus institutionnalisé, peut-être faire évoluer nos statuts en lien avec le ministère de l'Intérieur. En tout cas, donner les moyens à cet institut pour qu'il déploie tout son potentiel et puisse servir ceux qui servent ce pays. Ce sera peut-être également de compléter notre budget, faible au regard de ce que nous faisons, ce qui implique beaucoup d'investissements bénévoles, il y en a quelques-uns ce soir, et encore plus au regard de ce que nous pourrions faire. C'est surtout ça qui est frustrant. Dès lors, je passe la parole à Isabelle Bourgeois du Conseil d'administration, qui va précisément évoquer les perspectives de 2017, ce qu'on prévoit de faire et ce qu'on va faire, après avoir rappelé quelques éléments de bilan de l'IHEMR. Merci.
Bien, venons-en à notre bilan et à l'année 2017. Donc, Xavier vous a rappelé quelques éléments de bilan, 100 intervenants, 30 lieux partenaires. Nous avons donc à ce jour réalisé trois sessions nationales avec des auditrices et des auditeurs, chacun avec les profils très variés évoqués précédemment. Et d'ailleurs, vous pourrez les rencontrer et partager avec eux leur expérience après, lors du cocktail. Donc chaque session, je rappelle, c'est 2 voyages, 25 à 30 conférences et des travaux en petits groupes pour produire un mémoire. À cet égard, nous étions hier soir à l'Assemblée nationale pour les soutenances en présence de Monsieur le chef du Bureau central des cultes et l'Observatoire de la laïcité. Nous avons également entrepris de publier des textes de référence sur des sujets fondamentaux. Ainsi, une première réalisation sur les questions de fin de vie a été réalisée avec Tanguy Châtel, l'un des intervenants de l'Institut. Nous avons des textes en préparation, dont un à plusieurs voix par les responsables de l'Institut sur la fraternité, piloté par Bernard Ribal, président de notre conseil scientifique. Également un texte sur les périphéries sous la forme d'une interview de Jean-Marie Petitclerc, ici présent, et que nous saluons très très chaleureusement, sera proposé. D'autres sujets sont encore à l'étude pour 2017. En parallèle de cela et pour l'année à venir, nous poursuivons nos actions. Nous poursuivons la consolidation de nos liens institutionnels avec les associations d'anciens, les ministères, les autres IHE, peut-être le MEDEF. Nous réalisons des événements auxquels vous pourrez participer pour nourrir vos réflexions. Le week-end prochain, notamment, 28 et 29 janvier, à l'abbaye de Saint-Jacques en Bretagne, nous sommes partenaires d'un week-end d'études sur la question des migrants, l'hospitalité à l'épreuve. Les 28 et 29 mars, un colloque national autour des questions d'identité, nation et religion. Et d'autres événements suivront, donc surtout n'hésitez pas à nous laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous tenir informés. L'IHEMR est un institut de formation. Le menu pour 2017 est copieux. Nous élargissons notre offre et nous préparons des offres courtes à destination des jeunes publics à partir du mois d'avril. Nous aurons aussi des formations à destination des entreprises fortement interrogées par le fait religieux. Nous souhaitons nous engager également dans la préparation de sessions régionales que nous souhaitons pouvoir ouvrir dès 2018 en fonction des moyens que nous aurons, mais c'est un souhait qui est important pour nous. Et nous envisageons avec des partenaires de travailler à des offres à destination des périphéries et des plus jeunes. Il est urgent aujourd'hui dans notre République qu'il y ait mixité et égalité d'accès à des formations de bon niveau sur ces sujets. Naturellement, l'offre nominale de l'IHEMR, religion, laïcité et enjeux contemporains, sera assurée avec la 4e session nationale. Certains des futurs auditeurs sont présents aujourd'hui et nous sommes ravis de les accueillir et de travailler avec eux toute cette année. Voilà, chers amis, un aperçu de notre actualité et de notre projet. Avant de passer au débat, permettez-nous de vous présenter tous nos vœux pour une année lumineuse, riche en débats et en approfondissements. Vous pouvez compter sur nous à cet égard, nous serons à vos côtés et tâcherons de vous proposer les meilleures de nos ressources dans cette recherche et cette volonté de construction que nous partageons tous. Chers amis, merci de votre attention. Place maintenant aux responsables des cultes pour le débat « Religion en France, état des lieux et nouveaux défis ».
Démarrer le débat naturellement, mais on va avoir la politesse d'attendre le ministre, puisqu'il souhaitait assister. Il est là dans 3 minutes. Voilà, donc il y a un petit intermède non musical de 2 minutes, le temps que monsieur le ministre arrive et s'installe. En fait, Isabelle et moi, on a un peu écourté nos textes parce qu'on pensait qu'on n'avait pas le temps et on aurait dû rallonger. Oui, on peut reprendre, oui. S'il y avait des points pas clairs dans ce qu'on a dit, c'est le moment. Hein. On peut s'installer déjà, oui.
Thank you. je vais tweeter l'Assemblée. Voilà. Voilà.
Donc en attendant que le monsieur le ministre arrive, je rappelle un peu le déroulement. Hein. Là, on va partir pour une heure de conférence, un tout petit peu moins d'une heure. Donc conférence en trois temps. Une première question à chaque responsable de culte sur l'état des lieux de son culte en France aujourd'hui. Une seconde question ensuite, enfin un deuxième temps, la question porte sur les défis qu'ils ont à relever. Voilà. Et puis un troisième temps qui est un temps d'échange entre eux, de partage sur ces défis. On arrêtera à ce moment-là la conférence, puisque M. le ministre souhaite faire une déclaration. Voilà. Et on reprendra après avec vous pour la séance des questions. Voilà. Donc, a priori, dans 5 minutes, dans 3 minutes, on démarre jusqu'à 20h20. 20h20, 20h30, déclaration du ministre. 20h30, 21h, séance de questions pour vous. Et à partir de 21h, donc cocktail qui vous sera servi dans le hall. Alors, effectivement, c'est un projet qui est né d'une rencontre avec et d'échanges avec la région Île-de-France. L'idée, c'est que souvent en périphérie, il y a des jeunes qui sont assez remontés sur ces questions-là ou qui ont une vision de la laïcité qui est totalement erronée, qui la voient comme une arme de combat contestant en fait leurs convictions. Évidemment, c'est un construit tout à fait particulier, adolescent, et qui s'explique par tout un tas de raisons. Et donc, l'idée, c'est avec un partenaire qui a une bonne connaissance pédagogique de ces publics, parce que nous, on ne les connaît pas à l'IHEMR, hein, on s'adresse pas aujourd'hui à ces personnes. Donc, avec un partenaire qui est déjà sur le terrain et qui connaît ces jeunes, c'est de construire quelque chose avec eux. Pour travailler ce sujet-là, quoi. Ouais. Et avec cette idée que c'est important qu'ils rencontrent des grands témoins, des gens qui viennent, des élus par exemple, qui voient ce que c'est être un citoyen français avec des gens qui ont déjà un parcours accompli. Voilà, donc il est à l'heure. Il arrive. Bien. Voilà, donc bienvenue, monsieur le ministre, pour cette conférence de l'Institut des études du monde religieux en partenariat avec le Collège des Bernardins. Nous sommes ravis de vous accueillir. en ce lieu magnifique et en cette fin de session nationale de parcours des auditeurs de la troisième session. Donc 12 personnes qui ont suivi notre parcours de formation pendant un an et qui arrivent ce soir à son terme. Hier soir, ils faisaient leur soutenance de mémoire à l'Assemblée nationale devant notamment le chef du bureau central des cultes qui est ici présent ce soir, M. Chaumas, que je salue. Et ce soir, donc, dernière conférence de leur cycle. C'est un peu triste pour eux, hein, parce qu'on va se quitter, quoi. Mais voilà. Et alors, exceptionnellement, donc, les conférences habituellement de nos auditeurs sont fermées. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'eux qui assistent à ces conférences. Une fois par an ou deux fois par an, on fait des conférences ouvertes. Donc, un infini merci de d'être rentré. Cette conférence ce soir s'intitule « Religion en France, état des lieux et nouveaux défis ». Et nous avons le plaisir d'avoir quatre représentants des cultes ce soir pour la réaliser. Alors, je vais commencer par l'ordre historique. Hein, Monsieur le rabbin Michel Azoulay. Qui est ancien membre du comité national d'éthique, consultatif d'éthique, pardon, et qui est actuellement rabbin de la synagogue de Neuilly. Vous avez déjà eu l'occasion de venir faire une conférence chez nous. Je crois que c'était pour la toute première session nationale, il me semble, et c'était au CESE. Voilà. Puissance accueillante ce soir, président des Bernardins, évêque auxiliaire de Paris, Monseigneur Jérôme Beau. Je ne le présente pas plus, il est très connu, très reconnu. Voilà, qui donc portera la parole de la conférence des évêques de France, notamment ce soir. Monsieur Anouar Bibesh, président du CFCM. Alors, monsieur Anouar Bibesh est, comme moi, issu du monde des télécommunications. Voilà, on est très proches l'un de l'autre, notamment, pour cette raison-là. Et vous avez pris vos fonctions à la présidence du CFCM depuis maintenant à peu près 2 ans, si je ne m'abuse, un an et demi. Donc, oui, c'est encore relativement récent. Avec des projets relativement ambitieux, mais ajustés de réformes, de structuration, dans un contexte extrêmement difficile, avec énormément de sollicitations. Et en plus, donc, vous faites ce travail de manière, si je puis dire, bénévole. N'est-ce pas ? Donc, on vous remercie d'autant plus de consacrer du temps pour nous ce soir et pour le plus grand bénéfice des personnes ici présentes. Enfin, last but not least, et c'est bien que je le dise en anglais, Madame Jane Strands, qui est pasteur, Madame la pasteur, qui est en charge des relations œcuméniques pour la Fédération protestante de France, qui nous fait le plaisir d'être ce soir avec nous, alors je ne dirais pas en remplacement, mais il se trouve que François Claveroli, qui devait être présent, est reçu par le président de la République fédérale d'Allemagne, donc ne pouvait pas venir, et donc nous avons... Madame Strands qui assurera brillamment bien sûr cette mission ce soir. Voilà. Et effectivement, vous avez une forte spécialité, vous avez une connaissance des églises en Europe qui est assez large et qui rend particulièrement pertinente votre présence ce soir. Pour ce débat, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, hein, 3 temps. Un premier temps où chaque responsable va expliciter, faire un état des lieux. Un deuxième temps, tour de parole, où on va parler des défis. Et puis un temps d'échange entre vous. Et ensuite, Monsieur le ministre, la parole sera à vous. Voilà. Donc, sans plus attendre, je donne la parole à Monsieur le rabbin Michael Azoulay. État des lieux de la religion juive en France. Pour 5 minutes.
Merci pour votre invitation, monsieur le ministre et chers amis. Alors, l'état des lieux, en fait, de la communauté juive de France, peut-être d'abord en quelques chiffres. Je rappelle d'abord que la France, en France se trouve la première communauté juive, en fait, d'Europe. Donc c'est important de le rappeler. Mais c'est quand même, en France, la religion la plus minoritaire. Pour donner quelques chiffres, d'abord, dans le monde, c'est aussi une religion très minoritaire, puisqu'on compte à peu près 14 millions de juifs, ou 18 selon la façon dont on définit la qualité de juif. L'essentiel des juifs, en fait, aujourd'hui, vivent dans 2 pays, en Israël, à peu près 43%, et aux États-Unis, à peu près 39%, Voilà, même si, comme je l'ai dit il y a un instant, en Europe, la première communauté juive, c'est la communauté juive de France. Il y a à peu près 400... Alors, les chiffres ne sont pas très précis, mais entre 450 et 550 000 juifs qui habitent en France, même pas 1% de la population française. Il y a un phénomène d'émigration d'Alia depuis maintenant quelques années, en particulier depuis 2013. Il y a eu une forte accélération de l'Alia, c'est-à-dire de l'émigration des Juifs de France en Israël. Mais on ne peut pas dire qu'il y a un exode massif des Juifs de France, d'autant plus que beaucoup d'entre eux quittent Israël, pour un certain nombre de raisons qui sont notamment des raisons économiques, où il n'est pas plus facile en Israël qu'ailleurs de faire sa situation, comme on dit. Un autre chiffre important, c'est qu'il semblerait qu'il y a un très fort pourcentage de juifs, d'enfants juifs en France qui ont malheureusement quitté l'école de la République, puisqu'on estime qu'il y a à peu près 2 enfants juifs sur 3 qui sont scolarisés dans des établissements privés. Donc, ce que j'entends par privé, c'est juif ou autre, hein, mais privé. Donc il y a à ce niveau-là un certain échec de l'école de la République. Peut-être qu'on aura peut-être l'occasion d'en parler par la suite. Alors toujours dans cet état des lieux par rapport à la religion que je représente ce soir, le judaïsme, et notamment la formation des rabbins du consistoire. Alors je précise d'ailleurs, je vais en parler, il y a plusieurs courants dans le judaïsme, comme dans d'autres religions, il y a plusieurs courants. Simplement, il y a une école qui s'appelle le séminaire israélite de France, qui forme les rabbins du consistoire, qui connaît une crise des vocations. Depuis un certain nombre d'années maintenant, il y a peu de rabbins qui en sortent avec des diplômes. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a une véritable crise des vocations, difficulté pour motiver les jeunes à s'engager dans cette direction. Alors, au niveau de la sociologie, très rapidement, de la communauté juive, j'ai parlé des juifs affiliés au consistoire, dont je rappelle qu'il date, on le doit à Napoléon. Il y a à peu près 230 communautés à travers la France qui sont dites consistoriales, d'autres qui sont associées. Mais ça ne représente pas tous les Juifs de France, puisque vous avez également les communautés juives libérales. Je salue la présence ce soir du rabbin Yann Boissière du mouvement juif libéral de France, ma sortie. Vous avez donc ce qu'on appelle les orthodoxes, le consistoire et communauté orthodoxe, ou éclairée, j'aime bien cette expression. Beaucoup de juifs dits traditionnalistes, c'est-à-dire peu pratiquants, mais qui sont attachés au grand rite du judaïsme, et énormément de juifs qui ne fréquentent aucune communauté, qu'on pourrait appeler les juifs sécularisés. Donc, comme dans toutes les religions, il y a beaucoup de personnes qui sont détachées de leur religion. Et donc, les juifs de France n'ont pas échappé à ce mouvement de sécularisation des religions. Pour terminer, on note des regroupements importants des juifs en France, en certains endroits, donc au niveau géographique. Si je prends l'exemple de la communauté parisienne et Île-de-France, qui est quand même, je parlais tout à l'heure, les juifs sont la plus importante communauté en Europe, et on peut dire qu'en France, la communauté juive la plus importante, c'est celle de Paris et d'Île-de-France. Vous avez aujourd'hui un mouvement de regroupement, c'est-à-dire que beaucoup de juifs s'installent à l'est ou à l'ouest de Paris. Moi-même, je suis rabbin de Neuilly, comme ça a été rappelé. Et on a énormément de juifs aujourd'hui français qui sont entre Neuilly, le 17e, beaucoup de juifs dans Paris 17e. Donc il y a vraiment un mouvement de regroupement et beaucoup de communautés juives de province qui ont tendance tout simplement à disparaître pour un tas de raisons, acculturation, je parlais de sécularisation ou alors aussi émigration en Israël, ce qui fait qu'il y a un certain nombre de communautés juives de province qui disparaissent. Vous avez encore des grandes villes en termes de population juive comme Lyon, Marseille, Nice, Strasbourg, certainement les plus importantes. Mais après, au niveau des autres villes de province, il y a, c'est quelque chose qu'on ressent réellement, notamment le consistoire, puisqu'il y a des communautés, par exemple, qui n'ont plus aujourd'hui de rabbins, qui ne peuvent même pas financer, d'ailleurs, qui ne peuvent pas salarier, en fait, un rabbin. et beaucoup de communautés désertées en fait aujourd'hui, où les gens soit, enfin ces juifs-là, soit viennent s'installer dans la capitale, comme on dit, montent à Paris, ou alors s'installent sous d'autres cieux. Voilà en quelques mots ce que je voulais dire pour présenter de manière très rapide la situation des juifs de France. Peut-être juste pour conclure, vous aurez deviné à travers mes propos qu'un des défis auxquels nous sommes confrontés, c'est évidemment le défi de la visibilité. C'est-à-dire qu'en fait, en devenant de plus en plus minoritaire en France, eh bien, forcément, la voix juive a de plus en plus de mal à se faire entendre et sur certains sujets dont on va parler dans la seconde partie. Merci de m'avoir écouté.
Merci, Monsieur Urbain. Monseigneur, à vous.
Bonjour, Monsieur le Ministre. Faire l'état des lieux de l'Église catholique en France en quelques mots, c'est quand même un défi. C'est un défi parce que, vu de loin, on pourrait croire que c'est une communauté très homogène. En fait, elle est vraiment porteuse de toutes les réalités concrètes du peuple de France, avec toutes les tendances, toutes les options, tous les points de vue politiques. Et il n'y a pas une homogénéité, on pourrait dire, ça, ce sont les catholiques. Et je pense même qu'il ne faut pas, et que ça serait dangereux pour la société comme pour nous, d'essayer d'identifier les catholiques à un bloc, parce que ce n'est pas notre identité. Pour dire quelques chiffres, pour la France, il y a 12 000 prêtres, globalement. Mais si je souligne trois évolutions dans l'Église catholique actuellement, il y a à peu près, je crois, 2 000 ou 2500 prêtres qui viennent d'Afrique dans nos diocèses de France. C'est-à-dire que la manière dont un certain nombre de communautés sont maintenant animées avec des curés qui viennent de différents pays d'Afrique montre un changement par rapport à il y a 20 ou 30 ans, où vous avez, pour les plus anciens d'entre nous, on a la mémoire du curé qui était du village d'à côté, qui était vraiment du pays, si je peux dire ça pour la notion de région. Là, maintenant, il y a cette manière dont un certain nombre de communautés sont portées par des prêtres qui viennent d'autres continents. Cette évolution-là est une évolution qui est liée aussi à la baisse du nombre de vocations. Cette baisse, elle est sensible. Je crois que sur les 770 séminaristes qu'il y a en France, il y en a à peu près 150 quand même qui sont d'autres pays. Ça ne veut pas dire qu'ils resteront pour la France, parce qu'un certain nombre vont repartir après avoir été formés chez nous dans d'autres pays. La semaine dernière, par exemple, j'étais en Corée. Nous avons formé des séminaristes coréens qui recevaient l'ordination à Jeonju, à côté, au sud de Séoul, pour revenir dans leur diocèse. Donc, on a ce système d'échange, mais ça veut dire quand même que cette baisse du nombre de séminaristes, des vocations, est une question sur laquelle je vais revenir dans l'état des lieux. C'est la deuxième constatation. La troisième constatation, par rapport au nombre de prêtres, c'est que la baisse du nombre de prêtres et la baisse du nombre de vocations n'est pas un drame pour l'Église catholique. Parce que c'est simplement que le ministère du prêtre est en train de se transformer dans la manière d'agir, de vivre, de se situer par rapport à une communauté. Et que c'est une transformation, non pas où les prêtres seraient moins prêtres, mais je crois que la manière dont alors nos communautés sont portées ensemble par le peuple des baptisés, donne aux prêtres de se situer d'une façon neuve par rapport à leur communauté, et peut-être d'être plus prêtres, car d'être plus centrés, non pas dans celui qui animerait tout, mais plus centrés sur la place de son rôle par rapport au sacrement et par rapport à son, entre guillemets, ministère de prêtre. Donc, c'était le premier état des lieux sur la question des prêtres.
Deuxième évolution forte, nous avons 2600 ou 2700 diacres. En 2005, il y en avait 1800. Il y a une augmentation importante du nombre de diacres, c'est-à-dire de ministres ordonnés, mariés, qui exercent non pas le ministère de prêtre, mais de diacre, mais qui peuvent célébrer des baptêmes, des obsèques, des mariages, et qui donc introduisent dans la vie de l'Église et qui sont engagés dans leur vie professionnelle, ça engage dans la vie de l'Église un nouveau visage. Lorsqu'il y a un prêtre, plusieurs diacres, la communauté chrétienne qui autoporte son avenir et sa manière de vivre. Cette évolution-là est une deuxième grande évolution dans l'Église catholique. La troisième évolution que je soulignerai, c'est qu'il y a globalement 271 000 baptêmes chaque année, mais dont 21 000 baptêmes d'enfants de plus de 7 ans. Et même sur Paris, on a presque autant de baptêmes d'enfants nouveau-nés que d'enfants de plus ou d'adultes de plus de 5-6 ans. Ça veut dire que nous sommes actuellement sur un nombre de plus en plus important. On avait plus de 400 adultes qui ont demandé le baptême à Pâques de l'an dernier, sur Paris intramuros. Ça montre qu'on a un déplacement des demandes de baptême qui sont plus maintenant par des conversions d'adultes qui redécouvrent la foi, parfois en ayant vécu dans un milieu chrétien, mais pas suffisamment chrétien pour aller jusqu'à demander le baptême pour l'enfant, mais qui ont redécouvert ça comme une véritable richesse. Et puis, il y a 58 000 mariages par an en France de mariages sacramentels. Ça vous montre simplement cette forte évolution dans l'Église, la forte évolution de la notion de conversion, la forte évolution de la notion de communauté et la forte évolution aussi par rapport aux vocations et aux prêtres et à l'identité des prêtres dans notre pays. Merci.
Merci, Monseigneur. Juste, vous avez dit combien de séminaristes par an ?
J'en ai dit 750.
750, pardon, oui, c'est ça.
Et merci. Si on enlève 750. Ceux qui sont 150 étrangers, on arrive entre 650 et 600.
D'accord, merci. Merci, pardon, j'ai coupé les applaudissements. Non, merci. Merci beaucoup. Monsieur Gbibèche, pour un état des lieux sur la communauté musulmane en France.
Bonsoir à toutes et à tous, monsieur le ministre, mesdames et messieurs. Tout d'abord, heureux d'être parmi vous une nouvelle fois, un an après la dernière intervention dans le même cadre, dans les mêmes lieux. Alors c'est difficile là aussi de faire un état des lieux de l'islam de France ou des musulmans en France en 5 minutes. Mais l'idée, c'est de dégager quelques tendances et quelques repères. Alors déjà, par rapport au nombre de musulmans de France, c'est une question qui donne lieu à beaucoup, je dirais, de débats, pour ne pas dire polémiques. En général, on parle de 5 à 6 millions de musulmans. Alors, quand on parle de musulmans, c'est un peu de toute la palette. C'est les personnes qui sont de confession ou de culture musulmane. Ils ne sont pas tous pratiquants. Alors, il y a eu un rapport de l'Institut Montaigne qui est sorti au mois de, je crois, de juillet, qui parlait de 3,5 et 4 millions. Je pense qu'il est en deçà de... Du nombre réel. Alors, je ne sais pas quel message ça colportait par rapport à la sortie de ce rapport. Enfin, opportunément, ce rapport est sorti juste à la veille d'une primaire qui s'est passée au mois d'octobre-novembre, et un certain nombre de candidats se sont saisis tout de suite des chiffres qui étaient annoncés. En tous les cas, les chiffres fiables, c'est les derniers en date, c'est celui de l'INED qui, en 2009, parler de 4,8 millions de musulmans en France, et je pense qu'entre 2009 et aujourd'hui, il y a dû y avoir une petite augmentation, donc on va dire entre 5 et 6 millions. Alors en termes de pratiques religieuses, on va dire qu'il y a à peu près la moitié des musulmans qui sont pratiquants au niveau du respect des 5 prières quotidiennes, on va dire 50 à 60% qui respectent cette pratique religieuse. Quand on parle du jeûne du mois du Ramadan, le ratio augmente un peu. C'est aux alentours des deux tiers, 66%, 70%. En général, les musulmans sont plus respectueux du ramadan que de la prière quotidienne. Et puis, pour la prière du vendredi, là, par contre, il y a une très forte affluence. On parle d'1 million de fidèles, à peu près, qui se rendent à la prière du vendredi, ce qui pose d'ailleurs quelques problèmes de surface, notamment, puisque la capacité d'accueil des mosquées et des salles de prière à travers toute la France, elle est plutôt de 500 000 fidèles. Et vous avez quelques mosquées ou salles de prière qui finalement font deux services de prière du vendredi pour pouvoir accueillir l'ensemble des fidèles. Et c'est quelque chose qui est en augmentation. Alors en parlant des mosquées et de salles de prière, aujourd'hui elles sont estimées à 2500 mosquées ou salles de prière. Des vraies mosquées avec des minarets ou des grandes mosquées, c'est peut-être plutôt une centaine, entre 80 et une centaine de mosquées. Et le reste, ce sont des salles de prière qui sont plutôt à dimension locale, voire départementale. Alors concernant les mosquées qui sont affiliées au Conseil français du culte musulman, le CFCM, donc régulièrement, il y a à peu près 1700 à 1800 mosquées qui participent aux élections, enfin depuis 2003, et qui donc sont affiliés au CFCM. Aux dernières élections en date, celle de juin 2013, il y a à peu près 1000 mosquées qui ont participé aux élections. Les conditions étaient un peu particulières dans la mesure où il y a certaines fédérations, grandes mosquées, qui n'ont pas pris part au vote, mais ceci n'enlève en rien la représentativité du CFCM, dans la mesure où quand il y a des élections nationales où il y a 50% de participation, 60% de participation, aux élections, ça ne remet pas en cause la légitimité de ceux qui sont élus à ces élections-là. Alors, le nombre de projets en cours de construction de mosquées, il est estimé à 200 à 300 projets en cours. Pour la plupart, ils sont financés par les fidèles eux-mêmes, donc par des fonds franco-français. Il y a très peu de grands projets qui sont réellement aujourd'hui, construits sur la base de fonds venant de l'étranger. Là aussi, il faut démystifier un peu cette problématique. Aujourd'hui, on dénombre entre 15 et 20 grands projets de construction de mosquées qui sont financés par des pays musulmans. Et donc, ça se fait en toute transparence avec des partenariats et des contrats qui sont dûment signés. La plupart des projets aujourd'hui sont plutôt des projets à taille humaine au niveau d'une ou deux villes, de l'agglomération. Et ceci, on est sorti de la phase de ce qu'on appelait à l'époque des mosquées cathédrales dans les années 70-80, où il y avait un grand besoin de financement, de construction de mosquées. Aujourd'hui, ce sont des mosquées qui s'intègrent dans le paysage architectural français. Même au niveau des minarets, il y a eu une évolution, une adaptation des formes architecturales et des minarets, sachant que les minarets à l'époque du temps du prophète et même dans les pays musulmans, c'est pour savoir où se trouve la mosquée. Aujourd'hui, on se fie moins à sa vision oculaire pour trouver le minaret qu'au GPS ou à un annuaire qu'on trouve sur son portable pour trouver la mosquée tout de suite. Donc la notion du minaret, même si parfois il nuit parfois à l'image que peuvent avoir les uns et les autres de la religion musulmane, mais ce n'est pas une obligation en soi. Et c'est plutôt destiné dans une volonté plutôt d'orienter les fidèles vers le lieu de prière. Alors concernant les imams, il y a à peu près sur les 2500 mosquées ou salles de prière, il y a très peu d'imams qui sont, enfin très peu, ils ne sont pas tous des imams permanents, attitrés, avec un contrat en bonne et due forme avec la mosquée ou l'association gestionnaire du lieu de culte. Il y a aujourd'hui à peu près 1800 imams qui sont recensés. Le reste des mosquées, c'est des imams qui, volants ou temporaires, juste pour une prière donnée. Et donc sur ces 1800 imams, il y en a 300 qui sont détachés par des pays musulmans, donc 30 qui viennent du Maroc, on va dire 120 qui viennent de l'Algérie et 150 qui viennent de la Turquie. Donc les imams venant de l'étranger sont au nombre de 300 sur les 1800. Bon, on est inférieur au ratio qui vient d'être dit pour la religion catholique. On parlait de 2500 mais prêtres venant de l'étranger par rapport aux 12 000 qui sont en fonction. Et même sur le financement de la construction des mosquées, ça aussi, c'est une question parfois qui peut prêter à polémique, mais finalement, je vous ai dit qu'il y a une vingtaine de mosquées ou de grands projets de mosquées qui sont financés par des pays musulmans. Et par contre, on ne trouve rien à redire quand il s'agit d'une église orthodoxe qui a été inaugurée il n'y a pas si longtemps, en plein Paris, qui a coûté plus de 100 millions d'euros. Il n'y a personne qui s'en émeut, quoi. Voilà donc quelques chiffres, juste en deux mots pour ne pas trop déborder. Concernant la sociologie des musulmans de France, il faut savoir quand même que la catégorie socio-professionnelle des musulmans est à la hausse. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes couples installés, des cadres. On n'est plus dans la typologie de l'immigré de première génération qui vient travailler dans l'industrie automobile ou dans le bâtiment. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cadres, il y a un niveau de vie qui est élevé. Et ça se traduit dans la manière de vivre et dans les attentes de cette catégorie de citoyens français de confession musulmane. Ou même sur le halal, par exemple, il y a une très forte demande concernant de plus en plus d'exigences de qualité et de traçabilité qui est faite. Concernant les évolutions, on constate un regain de religiosité chez les musulmans, et notamment des plus jeunes. Et ça se traduit dans la catégorie d'âge des pèlerins qui vont à la Mecque. En général, le pèlerinage dans les années 70-80 était vu comme un fin de parcours dans la vie. C'est-à-dire, une fois qu'on a fait tous les péchés possibles et imaginables, on va à la Mecque pour tout effacer et se préparer à la rencontre de Dieu d'une manière plus propre. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans cette vision-là. Il y a de plus en plus de jeunes qui partent à la Mecque. Il y a à peu près 30 000 pèlerins qui partent de France, sachant que les quotas qui sont appliqués aux pays musulmans plafonnent le nombre de pèlerins qui partent de pays comme le Maroc, l'Algérie ou la Tunisie à 25 000, c'est-à-dire qu'il y a plus de pèlerins qui partent de France que de certains pays comme le Maroc ou l'Algérie ou la Tunisie. Et puis, bien sûr, il y a le contexte post-attentat, mais on aura l'occasion d'en parler par rapport aux défis dans un deuxième temps. Je vous remercie.
Merci, Président, pour cette présentation très complète. Madame la Pasteur, pour un état des lieux du protestantisme en France. Merci beaucoup.
Je vais me démarquer tout de suite de mes collègues. Je n'étais pas là l'année dernière. Il n'y a pas beaucoup de chiffres dans ce que je vais vous dire. Merci beaucoup de cette invitation. Bonsoir à vous tous, Monsieur le Ministre. Bonsoir. Je dois aussi vous adresser quelques paroles de la part de François Claveroli. Vous savez, il est avec un collègue ce soir. Joachim Gauck était également pasteur dans l'ancienne Allemagne de l'Est, et ils se rencontrent aussi pendant une année qui est un peu emblématique pour le protestantisme, 2017, les 500 ans de la réforme. Et je pense que je tenais à le dire, qu'il y a un pasteur qui est devenu président d'un pays. Quand je vois tout ce qu'il y a eu, comme quand un président qui était ou qui est prêtre catholique devient président d'une université en France, on peut aussi se dire qu'il y a des différences d'un pays à l'autre. Mon propos concernant un peu la prise de vue sur le protestantisme en France et ailleurs ce soir, c'est que tout bouge finalement, dans les forces et les faiblesses du protestantisme. Et cela bouge un peu à l'image de ce qui se passe au niveau mondial. Le christianisme au niveau mondial est en croissance. C'est peut-être difficile de dire cela ici en Europe, où nous vivons peut-être plus avec la sécularisation, mais le christianisme est en croissance au niveau mondial, en particulier en Afrique, mais aussi en Asie. Et je pense que c'est important de se rendre compte de cela. Chaque cinquième être humain est chinois. Et un autre, d'ici 10 ou 20 ans, un autre cinquième être humain va venir d'Inde. Le continent d'Asie est le continent sur lequel beaucoup de choses sont en train de se passer aujourd'hui. Et je pense que c'est important d'avoir ça un peu en vue quand nous parlons de religion aujourd'hui. La situation du protestantisme est très complexe. On n'a pas une seule église, on a plein de différentes églises. Nous sommes, on pourrait dire, entre quelque chose de l'implantation, de croissance. On est aussi, pour certaines églises, peut-être certaines églises plus historiques, bon, pas exactement en soins palliatifs, mais on est dans le maintien, dans le changement de modèle qui doivent changer pour répondre à une population changeante et aux défis d'aujourd'hui. Et je pense que vous pouvez voir plus de traces de tout cela sur le programme de Sébastien Fatt, par exemple. Dieu change à Paris, il dit. Mais moi, je dirais Dieu change en France, Dieu change peut-être aussi au niveau mondial. En ce moment, on a plus de chances peut-être de rencontrer un protestant égyptien, un protestant venant de Pondichéry, un protestant venant aussi de Chine, peut-être qu'un protestant de souche huguenot à Paris. Et il y en a quand même encore aussi des protestants de souche huguenot dont mon président François Claveroli est un bon représentant aussi, n'est-ce pas ? Dieu change à Paris. Alors il y a ça. Cela bouge aussi au niveau institutionnel, dans la représentation du protestantisme. Depuis 1905, la Fédération protestante de France existe, fondée suite à la loi de séparation de l'Église et de l'État. Une façon aussi de marquer le fait que les protestants de cette époque-là voulaient aussi soutenir la séparation de l'Église et de l'État, et continuent aussi de soutenir cela. Et puis en 2010, nous voyons une nouvelle institution se fonder en France qui s'appelle le CNEF, le Conseil national des évangéliques de France, fondé suite à une réconciliation entre les tendances évangéliques et pentecôtistes du protestantisme. Et on peut voir émerger entre le CNEF et la FPF peut-être deux approches différentes aussi à la laïcité. Je pense que ça, pour vous, ça peut être très intéressant. Le CNEF, il y a 2 ou 3 ans, a lancé un programme libre de le dire, pour dire nous sommes libres, selon la laïcité, de pouvoir proclamer et dire notre foi. Je dirais que la Fédération protestante de France, mon employeur, alors je tiens aussi à bien les défendre, serait beaucoup plus pour promouvoir la liberté de conscience comme valeur du protestantisme, en faveur vraiment de l'État comme un espace neutre pour la pratique de toutes les religions, et de pouvoir aussi habiter clairement cet espace public, cet espace politique, pour pouvoir avoir et soutenir la liberté d'expression. Peut-être c'est important de soutenir ou de souligner peut-être 2 autres petits changements dans le paysage protestant actuel. Je parlais un tout petit peu des communautés issues de migration, mais nous sommes en train de vivre aussi la migration aussi dans le temps. Les communautés qui viennent actuellement, qui s'installent, on va dire, depuis 5 ou 10 ans en France, ne sont pas forcément les mêmes communautés qui se sont installées il y a 30 ou 40 ans. Quand nous quittons notre pays, quand moi j'ai quitté mon pays il y a 25 ans, j'ai l'idée de ce pays comme il était il y a 25 ans. Quand je rentre en Angleterre, je suis horrifiée par le prix des choses, par exemple. Mais parce que j'ai encore cette idée de cette époque-là. Les gens quittent avec l'Église comme à l'époque où ils ont quitté. Et quand ils quittent maintenant, ils quittent avec une autre Église, des Églises plus pentecôtistes, des Églises moins attachées à l'Église comme institution. Et du coup, quand ils arrivent ici, ils ne peuvent pas non plus forcément trouver une Église dans laquelle ils se retrouvent, et ils fondent encore une autre Église. Alors c'est très très diversifié. Ça nous dépasse un tout petit peu et ça nous oblige aussi à travailler la relation, à travailler l'interculturalité. Et je pense que ce sont parmi les choses que nous allons mentionner dans les défis à venir.
Merci beaucoup, Madame la Pasteur. C'est à peu près 1 million de protestants en France.
Oui, on pourrait dire 1 million, on peut dire.
Pour avoir une
c'est,
idée.
Mais c'est en train de changer, les statistiques changent aussi, mais on pourrait dire ça.
D'accord. Merci infiniment pour... vous êtes contraint, plus ou moins, dans le temps imparti sur cette présentation. Extrêmement difficile, en effet, de synthèse en un temps très court. Je vous propose donc maintenant de passer à la seconde partie, qui sont les nouveaux défis que vous avez commencé à évoquer, monsieur le rabbin, hein, notamment, avec la problématique de la transmission, la formation des rabbins, notamment, la disparition de certaines communautés, l'évolution sociologique également, et peut-être d'autres.
En fait, comme je disais tout à l'heure, le premier défi en fait, pour une religion minoritaire, c'est déjà de survivre. Donc ça veut dire qu'il y a toute une réflexion aujourd'hui pour essayer de savoir comment est-ce qu'on s'adapte à la mondialisation, qui concourt à un certain effacement des cultures particulières. Donc voilà, moi je note déjà ça. Ce que je voudrais rajouter aussi au niveau des défis, c'est les relations avec les autres. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais j'ai vu beaucoup, on en parlait ce soir, en ce qui concerne l'évolution par rapport à la pratique et le retour à sa tradition, on note aussi dans la communauté juive un retour à la tradition. Donc j'ai parlé de sécularisation, évidemment, il y a beaucoup d'assimilation, qui est aussi une preuve d'intégration des juifs à la France, qui est, comme vous le savez, qui est très ancienne. Maintenant, il y a effectivement un certain retour au judaïsme, un certain retour à la tradition, et il y a aussi malheureusement parfois une tentation du repli communautaire qui s'explique évidemment par les événements qui ont touché les juifs, pas seulement. Il y a une certaine inquiétude aujourd'hui avec laquelle nous vivons en France suite aux attentats que vous connaissez, et nous on le ressent particulièrement parce que, comme beaucoup de lieux en France, il y a une présence militaire, policière, très importante. Pour donner l'exemple de ma communauté à Neuilly, la synagogue est en permanence gardée par des soldats, des vigiles, etc. Donc ça concourt évidemment à un certain repli communautaire. Et en fait, le défi, à mon avis, justement, c'est d'éviter ce repli, ce retour, cette tentation de repli communautaire, et d'essayer de s'ouvrir aux autres. Je pense, par exemple, que le dialogue avec l'islam de France n'est pas encore assez développé, d'autant plus qu'il y aurait... on pourrait s'enrichir mutuellement par des conseils ou par des expériences réussies. Je voudrais donner deux exemples. Par exemple, l'école rabbinique en France, qui forme des rabbins français avec une culture française, avec un langage audible par des juifs français. On a beaucoup parlé de la formation des imams de France. Donc évidemment, je pense qu'il y aurait ici une matière à s'inspirer de ce qui s'est fait dans le monde juif. On parlait des mosquées tout à l'heure, M. Guibèche parlait des mosquées, du financement des mosquées. J'ai lu récemment qu'il y avait une idée à travers la cacheroute, ce que nous appelons la cacheroute, c'est le halal dans l'islam, de prélever des taxes qui permettraient de financer les mosquées, comme nous avons la cacheroute, c'est-à-dire les lois alimentaires juives, certains produits, en fait, qui sont dits cachères. Il y a des taxes qui sont prélevées sur les consommateurs. Quand vous achetez un produit, il y a une partie qui va justement au consistoire ou à des institutions qui permettent justement de financer la vie juive. Donc voilà un exemple des idées qu'on pourrait partager. Alors peut-être encore dans les défis, je noterai qu'il faut œuvrer aujourd'hui pour une laïcité, et je crois que les juifs doivent le faire, parce qu'ils l'ont toujours fait, pour une laïcité qui soit pas seulement une laïcité de tolérance des religions, mais plutôt une laïcité qui conçoit l'idée qu'on a tous des valeurs, une sorte de réseau de valeurs qui nous enrichissent mutuellement, et que finalement les citoyens peuvent s'enrichir, enfin peuvent enrichir leurs relations par toutes ces valeurs que nous partageons, ou que nous ne partageons pas d'ailleurs. Mais enfin, l'idée, je crois, effectivement, c'est de militer pour cette forme de laïcité que j'oserais qualifier plutôt inclusive qu'exclusive. Et peut-être d'ailleurs en s'aidant de la notion de communauté, parce que très souvent quand on parle de communauté, on a tendance à penser que la communauté égale le repli sur soi, mais on oublie qu'une communauté, c'est des hommes et des femmes qui sont rassemblés pour quelque chose qu'ils ont en commun, qui est au-dessus de leurs intérêts individuels. Et du coup, c'est une très bonne école pour apprendre ce que c'est que constituer une nation, parce que finalement une nation, justement, ça dépasse, c'est quelque chose qui nous permet de nous hisser au-dessus de nos individualités. Et la communauté, paradoxalement, on a tendance à penser qu'elle amène à un repli sur soi, alors qu'en vérité, la communauté peut être un mode, un modèle d'apprentissage, justement, de ce que c'est des intérêts communs, supérieurs, qui nous permettent de vivre ensemble avec nos différences et de coexister ensemble. Donc je crois qu'un des défis aussi pour nous, pour la communauté juive, et parce qu'elle est souvent aussi confrontée parfois à une certaine laïcité qui a beaucoup de mal à comprendre les rites ou certaines choses qui effectivement nous différencient des citoyens, eh bien il y a aussi à mon avis ici un défi important à relever, c'est dans cette conception d'une certaine laïcité. Et je suis contente de le dire ce soir parce que c'est exactement ce que fait l'IHEMR en essayant de montrer comment il peut y avoir justement un apport mutuel à des religions et de la laïcité. Je terminerai juste en vous disant qu'il y a évidemment des défis internes à la communauté juive qui se posent dans les communautés orthodoxes dont je fais partie. La place de la femme, c'est dans des communautés libérales souvent c'est un problème qui se pose de moins en moins, mais chez nous il y a encore des problèmes autour de la place dans les synagogues, de l'accès à l'étude, aux études juives. Voilà, donc c'est encore des problématiques qui se posent et qu'il nous faut affronter pour faire en sorte, effectivement, que les femmes soient de plus en plus intégrées, enfin, au même titre que les hommes, dans les qu'elles puissent être présidentes de communautés, qu'elles puissent prendre la parole dans les synagogues. Enfin, il y a encore des choses à faire. Et ça, c'est en tout cas au niveau des défis internes. Mais vous comprenez que ces défis internes renvoient aussi à une problématique qui n'est pas qu'interne, puisque ça relève finalement d'un statut de la femme dans notre société et comment nos religions peuvent être ou pas le reflet de ce statut des femmes. Voilà. Et puis à part ça, pour terminer, toujours au niveau sociologique, il y a des défis, mais qui se posent aux Français en général, c'est les défis de la précarité. La communauté juive n'est pas plus épargnée que les autres dans toute cette précarité qui touche les Français. Il y a eu récemment, enfin, comme chaque année, une campagne du Fonds social juif unifié de la Tzedaka. C'est-à-dire, en fait, l'idée, c'est d'aider des associations. Ils aident pas moins de 150 000 juifs en France dans la précarité, en aidant des associations qui les aident. Donc, il y a aussi, évidemment, le défi de la précarité, donc problème de personnes vulnérables, sans emploi, etc., où là aussi, évidemment, la communauté juive y est confrontée, comme toutes les autres composantes de la société française.
Merci beaucoup, Monsieur le Rabbin. Alors, je crois que vous avez une contrainte, Monsieur le Ministre, à 20, mais on a le temps de largement pour vous, Monseigneur Beau, si vous le souhaitez.
Je vais seulement reprendre deux défis qui me semblent importants. Le premier défi, il vient de la chance de ce que nous vivons dans une ville comme Paris, c'est-à-dire la chance de que tous les pays du monde soient rassemblés dans la même cité. C'est quand même une chance extraordinaire, vous vous rendez compte? On peut voyager dans le monde entier simplement en rencontrant l'autre. Mais rencontrer l'autre, ça demande de pouvoir avoir avec l'autre un dialogue qui ne peut être un vrai dialogue que si on se sent libre intérieurement. Et ce dialogue, évidemment, il se situe dans des religions extrêmement différentes, des religions qui, parfois, ne sont pas du tout semblables. Et donc, nous sommes devant un dialogue interreligieux au cœur même de notre ville de Paris. Et il est important, et c'est le premier défi que je vois pour l'Église, pour les chrétiens, pour les catholiques de Paris et les catholiques de France, c'est d'apprendre ce dialogue. Comment leur apprendre ce dialogue? Je crois qu'il y a... Le premier risque, c'est que le catholique, et je pense que c'est une de nos difficultés aujourd'hui, se découvre muet devant les questions des autres. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un d'une autre religion vient lui dire, d'une autre religion ou d'une autre conviction, ou qui ne croit pas en Dieu, vient lui dire, mais comment est-ce que vous pouvez dire que Jésus est vrai homme et vrai Dieu? Comment, pour vous, vous pouvez dire que vous croyez en la résurrection des morts? Comment, pour vous, vous expliquez le pardon? Comment vous pouvez dire que, dans la communion eucharistique, c'est le corps du Christ que vous recevez? Des questions simple de la foi. Et cependant, lorsqu'elles nous sont posées, il arrive que de nombreux catholiques n'aient pas les mots pour dire leur foi. Et donc, le premier défi, c'est libérer la capacité d'un certain nombre de catholiques de pouvoir dire, expliquer paisiblement, en termes rationnels, leur foi. Pourquoi c'est un défi qui est à la fois interne et externe? Parce que je crois que lorsque on est confronté à son propre mutisme devant une question qui est essentielle à notre foi, il y a deux risques. Le premier risque, c'est le risque de la peur. Et donc, on se renferme sur soi-même et on se renferme sur un principe identitaire. Parce que l'autre me fait peur, puisque l'autre me met en position d'instabilité, puisque je ne sais pas répondre et que je n'ai pas les mots pour le dire. Ou sinon, on lâche les rênes, j'allais dire, et on part dans un syncrétisme. Oui, tout se vaut, nous avons les mêmes valeurs, n'est-ce pas? Le n'est-ce pas fait tout. Et puisque nous avons les mêmes valeurs, mais ce syncrétisme engendre aussi la violence. Car lorsqu'on a l'impression d'être nié par nos propres paroles, la violence naît dans le cœur de l'homme. Et donc, le premier défi, c'est de former le peuple de l'Église catholique à cette liberté du dialogue, de pouvoir dire paisiblement, sans crainte, leur foi, et apercevoir que leur foi se traduit par une anthropologie. C'est-à-dire, ce n'est pas au nom de leur foi qu'ils vont dire telle ou telle, qu'ils vont avoir telle ou telle position dans la société, mais c'est parce que leur foi se traduit dans leur vie, dans leur conception, par une anthropologie, que comme citoyens, ils peuvent avoir une position, j'allais dire politique parfois. Mais c'est comme citoyens, ce n'est pas comme religieux. Parce que la foi chrétienne, c'est une foi de l'incarnation qui se traduit dans l'incarnation d'une anthropologie, et chacun peut avoir après, et à l'intérieur de la même religion catholique, des interprétations différentes de ce chemin de l'accomplissement de l'anthropologie. On n'est pas forcé de penser pareil, mais cette traduction-là, elle se fait comme un citoyen libre et non pas au nom de notre religion en premier. Donc vous voyez, ce premier défi, c'est le défi d'avoir la capacité d'être suffisamment formé pour pouvoir se situer en liberté par rapport à l'autre et du coup à être artisan de paix et de fraternité, parce que sans peur qui ferait un repli identitaire et sans syncrétisme qui engendrait une sorte de violence par une impression de négation de soi-même. C'est cette articulation-là qui, il me semble, est le premier défi auquel nous sommes confrontés. Le deuxième défi, c'est toujours au niveau de ce rapport à la culture. Aucune culture ne peut s'identifier à notre foi. Toute culture est finalement l'objet même d'une critique par le Christ. Le Christ critique toute culture et nous ne pouvons pas dire « cette culture-là est vraiment une culture chrétienne ». Non, le Christ va être un élément critique de toute culture. Et cet élément critique de toute culture va permettre alors que nous ne soyons pas comme assimilés à une culture, à une modalité de vie, mais bien que nous comprenions toujours que nous avons à accepter d'être dans une critique d'une culture pour pouvoir avancer vers une plus grande vérité de l'homme. Mais aussi, il faut le mouvement inverse pour que cela puisse engendrer la paix. Il faut que la foi se fasse culture, c'est-à-dire qu'elle accepte, non pas qui est le domaine de la foi dans lequel on pourrait, entre guillemets, s'enfermer, mais bien que cette foi puisse se traduire en acte, en vie, dans la culture même de notre pays. La foi doit s'incarner dans la relation entre les hommes, dans la paix, dans l'amitié, dans la fraternité, pour donner justement à la dimension de notre foi qui se fait culture, de n'être pas quelque chose qui soit un mirage, mais qui soit quelque chose qui marque l'humanité de ce qui pour nous est l'identité de Dieu, Dieu et Père, pour que nous soyons tous les uns et les autres frères et sœurs.
Merci infiniment, Monseigneur. Je crois que vous avez sidéré la salle. Donc le point formation et effectivement la partie inculturation de la foi dans la culture, de sorte qu'elle s'incarne en quelque sorte. Hein. Est-ce que, comment vous voulez faire? Je me permets.
Je serai moins long.
Et on va jusqu'au bout. Voilà, et puis c'est beaucoup mieux. Merci infiniment. Hein. Monsieur Gubèche.
Alors par rapport aux défis, moi j'essaierai de me focaliser sur 5 défis majeurs auxquels les musulmans de France doivent faire face. Le premier, bien sûr, c'est celui de l'image de l'islam et des musulmans auprès de la société française. Ça, je crois que c'est le premier défi que nous devons relever. Alors il y a plusieurs raisons à cette image dégradée qui se confirme sondage après sondage. Il y a quelques mois, il y a un sondage qui est paru dans le Figaro, pour ne pas le citer, qui disait que 75% de nos compatriotes avaient une mauvaise image de l'islam en France. Et ça, c'est un véritable défi, pour ne pas dire un véritable drame, qu'on en soit arrivé là. Alors, comme j'ai dit, il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur, peut-être, il est lié à ce contexte tragique post-attentat, dans lequel il y a un amalgame effectivement qui est fait entre la religion musulmane et un certain nombre d'actes de violence et de terrorisme. Et là, c'est un autre défi sur lequel je reviendrai plus tard. Il y a également quand même un sentiment qui est resté résiduel dans la société française, qui considère que l'islam, c'est la religion de l'étranger, et donc cet étranger, il va falloir qu'il revienne chez lui un jour. Or là-dessus, enfin, je m'excuse de la mauvaise nouvelle, mais les musulmans de France, les citoyens français de confession musulmane, sont des citoyens français à part entière et non des citoyens entièrement à part. Avec François Claveroli, on faisait un certain nombre de conférences. À chaque fois, il disait les musulmans, c'est un peu comme la tante qui vient le week-end, il faut lui trouver une place, il faut bien l'accueillir, etc. C'est très bien, sauf que je lui dis qu'avec les musulmans, c'est peut-être pas la tante, c'est plutôt la belle-mère. Et en plus, elle ne vient pas que pour un week-end, elle vient pour s'installer définitivement. Quoi. Donc il faut casser cette image d'un islam de l'étranger. Il y a aussi malheureusement un certain nombre de pratiques qui ont une part de responsabilité. C'est trop facile de rejeter les raisons de cette image sur l'autre. Et c'est cette tendance parfois chez certains musulmans, une posture de victimisation et dire que c'est le complot, c'est la colonisation, c'est tout ce qu'on veut, mais les musulmans eux-mêmes, et les musulmanes notamment, par leurs pratiques, par leur façon d'être, font parfois, contribuent à cette incompréhension, à cette dégradation d'image. Il y a eu des débats sur le voile intégral. Je peux vous assurer, je l'ai déjà dit ici même il y a un an, la pratique du voile intégral heurte, même dans un certain nombre de pays musulmans, et notamment le Maroc, dont je suis originaire, où un certain nombre de femmes voilées totalement noires, elles sont plutôt appelées les ninjas au Maroc même, et elles choquent le reste de la société, alors qu'en est-il dans les sociétés occidentales et la société française en particulier. Et puis il y a également ce qui a été évoqué tout à l'heure avec une certaine conception de la laïcité. Je pense qu'il va falloir revisiter la définition de la laïcité telle qu'elle a été débattue en 1905, où la laïcité est plutôt une loi de liberté, de garantie de liberté de conscience, de croire, de ne pas croire, et la liberté pour ceux qui croient de pouvoir vivre librement et sereinement leur religion. Et ce n'est en aucun cas une laïcité de combat ou une laïcité d'exclusion. Et donc il y a une volonté de certains d'essayer d'aseptiser un peu l'espace public, comme on dit, cacher ce saint, S-A-I-N-T, que je ne saurais voir. Alors qu'il faut quand même, derrière, quand on parle de la neutralité, c'est la neutralité de l'État, la neutralité des services publics et non celle des usagers qui sont là dans l'espace public avec leurs croyances et avec leurs convictions. Et puis il y a enfin une certaine instrumentalisation malheureusement politique et médiatique de cette question. Et on est à la veille d'échéance électorale et on voit bien que cette question cristallise et cette période, malheureusement, est propice à celui qui tapera le plus sur les musulmans pour avoir le plus de voix possible. Tout ceci contribue à cette image dégradée. Alors, le deuxième défi, c'est celui, bien sûr, de la radicalisation. Et je pense que notre pays, malheureusement, a payé un très fort tribut par rapport à tous ces attentats à répétition. Tous les débuts d'année, on se souhaite une bonne année. C'est ce qu'on a fait également en 2016, mais on a passé une année 2016 horrible avec les attentats de Magnanville, enfin avec ce couple de policiers qui a été assassiné, avec ce qui s'est passé le 14 juillet, avec 85 vies innocentes qui ont été fauchées par un individu, et puis bien sûr avec l'attentat ou l'assassinat du père Jacques Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray. Et donc tout ceci laisse des traces. Et les musulmans de France sont touchés également. Ils sont touchés en tant que citoyens parce qu'ils vivent les mêmes drames et les mêmes malheurs que leurs concitoyens de toute confession et de toute conviction. Et également, ils sont touchés parce que ces actes abominables sont commis au nom de leur première religion. Et donc, par rapport à ça, le CFCM a pris un certain nombre d'initiatives, telles que celle de la mise en place d'un conseil théologique ou d'un conseil religieux qui aujourd'hui est installé. Il y a une trentaine d'imams ou de savants ou de théologiens qui constituent ce conseil théologique, et il a commencé déjà à faire un travail de fond sur la prévention de la radicalisation et notamment sur l'élaboration de ce qu'on appelle le contre-discours pour contrer toutes les argumentations théologiques qu'utilisent Daesh et autres pour essayer de dévoyer un certain nombre de textes sacrés et de retourner ou d'attirer un certain nombre dans nos jeunes. Donc il faut immuniser ces jeunes, il faut leur donner la vraie lecture d'un certain nombre de concepts tels que le djihad, tels que celui du califat, un certain nombre de notions qui sont dévoyées. Donc le conseil religieux est en place et il a commencé ce travail d'élaboration du contre-discours. Il y a également la question de la formation des imams qui est également importante, et par rapport à ça, le CFCM travaille sur une charte de l'imam pour pouvoir avoir des engagements clairs sur le discours que porteront les imams de France, à la fois sur le plan religieux, qui doit être un islam ouvert, un islam tolérant et un islam du juste milieu, mais également sur le plan républicain. Ils doivent porter un discours auprès des fidèles qui soit respectueux des lois et des valeurs de la République et qui doit contribuer au vivre ensemble. Et par rapport à ça, pas plus tard que cet après-midi, nous avons planché sur cette charte de l'imam qui, j'espère, si elle se concrétise, va énormément changer la donne ici en France. Et c'est pour ça que ça se passe d'une manière... Les débats sont animés, mais j'espère qu'on aboutira à mettre en place cette charte de l'imam. Ça, c'était le deuxième défi, celui de la radicalisation. Troisième défi, c'est celui des actes anti-musulmans. Je vais essayer d'être court. Bien sûr, il y a eu une explosion, malheureusement, en 2015 et début 2016, des actes anti-musulmans, mais nous constatons qu'il y a une diminution, avec notamment les actes antisémites également, qui sont en recul. Mais c'est un vrai défi qui se pose aux musulmans de France. Tout à l'heure, Michael parlait de l'Alaya pour un certain nombre de juifs de France. Pour la première fois, après ce qui s'est passé en Corse, j'ai entendu parler, alors je ne sais pas si on peut l'appeler, de l'Alaya des musulmans de France. Il y a certaines familles musulmanes aujourd'hui qui pensent au retour au pays d'origine. C'est un phénomène nouveau au vu des actes anti-musulmans qui se perpétuent. Je terminerai par un dernier défi parce que je ne pourrais pas aller jusqu'au cinquième. C'est celui de l'ouverture envers l'autre, de l'ouverture envers les autres. Et là-dessus, le CFCM a aussi pris un certain nombre d'initiatives telles que l'initiative des journées portes ouvertes autour du thé de la fraternité dans les mosquées de France. Et je peux vous annoncer que cette initiative sera renouvelée à nouveau. Et nous avons décidé au niveau du bureau du CFCM d'avoir deux rendez-vous dans l'année. Un rendez-vous au printemps avec un week-end dédié pour les journées portes ouvertes dans les mosquées de France. Et un deuxième rendez-vous qui sera au mois de septembre. On s'associera aux journées du patrimoine et les mosquées seront dans les circuits de visite dans les journées du patrimoine. Et puis il y a également le dialogue interreligieux dans lequel on s'investit beaucoup, notamment avec nos frères juifs. Enfin, pour rassurer Michael, il y a des commissions mixtes que nous avons mis en place avec le consistoire, notamment sur l'abattage rituel, où nous sommes en train de capitaliser sur les expériences des uns et des autres, à la fois sur le halal et sur le kasher. Et nous espérons bien tirer profit de l'expérience du kasher et de la kasheroute pour pouvoir mettre en place une redevance du halal. Donc le dialogue avec les autres religions est très très développé et nous sommes convaincus que derrière ça doit contribuer au vivre ensemble. Je terminerai juste par une petite note d'optimisme, c'est que début janvier on s'est retrouvé à l'ambassade de Tunisie, chrétiens, juifs, musulmans, pour fêter la concomitance des trois fêtes, le maoulid qui est la naissance du prophète
pour les musulmans, le Noël pour les chrétiens et la Hanouka pour les juifs. Et nous avons allumé les trois bougies. J'ai allumé la deuxième avec le grand rabbin de France. Et je pense qu'il faut démultiplier ces initiatives de dialogue interreligieux et de renforcement du vivre ensemble. Je vous remercie.
Merci, Président. On aura le temps d'y revenir. Madame Strantz, Madame le Pasteur, merci. Si on peut faire concis, quitte à redévelopper derrière. Hein.
Voilà, on va essayer.
Merci infiniment.
Quelques défis, et je donne un petit titre. Le titre du conflit à la communion, c'est le titre d'une rencontre entre le pape François et l'évêque Munib Younan à Lund pour lancer les 500 ans ou le 500e anniversaire de la réforme l'année dernière. Et je pense que c'est un joli titre du conflit à la communion qui peut aussi parler aux différentes religions. Mon premier défi ne regarde pas seulement le protestantisme, mais je me demande, est-ce que nous sommes capables en France de regarder un tout petit peu avec recul la laïcité? La séparation de l'Église et de l'État est née dans un conflit. Sommes-nous capables de passer de ce conflit à seulement un nouveau conflit ou de nouveaux conflits? Sommes-nous capables de passer vers une communion, de passer non pas à vouloir toujours cantonner le religieux, mais aussi assumer le rôle de l'État pour la neutralité, pour la protection des minorités, et de sortir peut-être le religieux du tabou. Hein. En combien sommes-nous capables de penser et de passer vers une laïcité qui est une laïcité de diversité? Moi, j'étais très intéressée par cette idée d'une laïcité en réseau, une laïcité d'inclusion. Et je pense que c'est important. Le Sénat vient d'avoir aussi toute une série de sessions concernant est-ce que la laïcité aide les femmes à être vraiment intégrées aussi dans la société française. Et je vous conseille de lire le rapport qui est sorti la semaine dernière. Ce n'est pas facile. Et je me tais sur ce sujet parce que je sais que quand une femme commence à parler de l'intégration des femmes, c'est toujours vécu comme une sorte de revendication. Alors, merci beaucoup d'avoir abordé cette question. Le pasteur Claveroli m'a suggéré de l'aborder, mais je ne vais pas aller plus loin. Je vous laisse le soin de faire cela, messieurs.
C'est très élégant.
Je pense qu'il y a une autre question pour les églises issues de migration, et c'est la question des lieux de culte. Et c'est quelque chose où je dirais qu'avec beaucoup de nos frères et sœurs musulmans, nous sommes sur le même terrain, mais parce que les églises protestantes sont souvent très, très petites et éclatées, elles n'ont pas forcément toujours le même apport quand ils vont voir le maire, parce qu'il a peut-être 10 demandes qui viennent de différentes communautés protestantes. Et c'est quelque chose où la Fédération protestante de France essaye d'aider à travers la fondation du protestantisme pour essayer de structurer les demandes, de structurer aussi les constructions. Mais c'est compliqué, et je pense que c'est quelque chose dont vous parlez un tout petit peu aussi au niveau de la conférence des responsables de culte en France. C'est un aspect très important parce que ça peut créer aussi des tensions sur le terrain, localement, entre des communautés chrétiennes et musulmanes, et c'est quelque chose qu'il faut absolument essayer de travailler. Je pense que ça, c'est un défi. Un autre défi, c'est l'autosuffisance, et ça va dans plein de différents sens. Dans beaucoup de différentes directions en même temps. Il y a l'autosuffisance des communautés qui tournent un peu sur elles-mêmes, mais il y a aussi, avec le numérique, le problème de l'autosuffisance, si on peut dire, linguistique. On peut toujours écouter la radio de son pays d'origine, beaucoup plus facilement aujourd'hui que dans le temps. Et du coup, il y a des enjeux au niveau... Moi, je n'aime pas trop utiliser le mot intégration à la française. Je préfère le terme de l'inclusion. Je pense que c'est important aussi de noter cela. Mais il y a des questions autour de l'identité qui ne changent pas quand on change de pays, parfois. Et ça, c'est un défi. Puis un dernier défi pour passer du conflit à la communion. Et vous avez remarqué, hein, je suis plus prédicatrice que conférencière. Et ça concerne la théologie de la grâce. De temps en temps, j'ai l'impression dans nos sociétés et nous, les personnes dans les différents cultes, nous devons faire très attention à cela, que être victime semble parfois être quelque chose auquel on aspire, et on doit essayer de faire gaffe avec ça, parce que ça porte préjugé aux vraies victimes, il me semble. Je pense que là, la théologie de la grâce qui existe dans nos différentes religions, qui existe dans dans le christianisme de toute façon, que les réformateurs ont mis en avant, je pense que cette théologie de la grâce enlève cette idée qu'il ne faut surtout pas me juger, moi je suis aussi victime. Cette théologie de la grâce nous aide à être acteurs et à avoir des concitoyens qui sont aussi acteurs, d'être co-créateurs et de vivre ensemble dans un état que nous voulons construire ensemble, religieux, non religieux. Et je pense que ça, c'est vraiment un des enjeux pour moi, pas seulement pour des protestants, mais pour tous les religieux et tous les non religieux aujourd'hui.
Merci beaucoup, Madame la Pasteur. Bien, je vous propose sans transition, Monsieur le Ministre, de prendre la parole avec nos excuses pour ce retard. Mais c'est vrai que l'exercice de synthèse est extrêmement difficile.
Mais je vois que ce n'est pas un retard. Je vais intervenir au milieu de votre conférence et donc susciter des réactions alors que je ne serai plus là. Et c'est ça qui me gêne le plus, d'ailleurs. Et c'est pour ça que je voulais d'abord la réduire, cette intervention, mais surtout vous écouter, parce que s'il y a bien première chose que nous devons faire ensemble, c'est au moins le partage des interventions. Et donc, de ce point de vue-là, je voulais y apporter ma part. Monseigneur, président du Collège des Bernardins, j'allais dire Monsieur le Pasteur, mais non, j'ai François
Claveroli.
Oui, et François Claveroli, mais je vais dire d'ailleurs Madame la Pasteur, d'autant plus que François Claveroli m'avait prévenu la semaine dernière, lors des vœux de la Fédération protestante de France, qu'il essayerait d'avoir pour les colloques qui vont être organisés à la rentrée prochaine la présence de Joachim Glock, et donc qu'il était important qu'il soit avec lui ce soir. Monsieur le Président du Conseil français du culte musulman, Monsieur le Rabbin, Mesdames et Messieurs, pour les auditeurs qui achèvent aujourd'hui leur formation à l'IHEMR, et c'est à eux que je veux penser dans ce premier temps, c'est très certainement, vous l'avez souligné, un moment d'émotion. Le terme symbolique d'une aventure collective, d'une aventure intellectuelle, culturelle et, très certainement aussi spirituelle, qu'ils ont vécu à Paris et au cours des voyages qu'ils ont effectués. La soutenance de leurs travaux de recherche qui a eu lieu hier a couronné le travail de réflexion exigeant qu'ils ont entamé et que vous avez terminé. Mais termine-t-on véritablement le travail que vous avez commencé à mettre en œuvre? Et donc, si j'ai souhaité être parmi vous ce soir, et ce dès l'invitation que vous avez formulée, c'est que la formation dispensée dans le cadre de cette session nationale contribue concrètement, je le pense, à l'émergence dans notre pays d'une laïcité d'intelligence, pour reprendre l'expression de Régis Debray. Vous le savez tous, vous qui avez suivi cette formation ou qui êtes des responsables cultuels, notre pays est confronté aussi à de nouveaux défis en matière de laïcité. Il n'y a pas que les religions qui sont confrontées à ces défis. Notre pays lui-même est confronté à ces défis. Et ce concept qui paraissait quelquefois si simple, si usuel, a pris de nouveaux contours au fur et à mesure que notre société a évolué. Sécularisation accélérée d'un côté, qui a conduit de nombreux de nos concitoyens à perdre le lien culturel qui les unissait aux religieux, émergence de l'autre de nouvelles identités religieuses dans notre pays. Et face à ces défis, le déni et l'abstention ne sont pas des solutions. Il est difficile de comprendre la motivation des nouveaux comportements religieux et le rapport parfois très sensible que les Français entretiennent avec eux si l'on ne se frotte pas à l'étude du fait religieux. Et cela d'autant plus que notre pays, dans ce domaine, est dans une situation très particulière. Il abrite d'un côté une forte diversité religieuse et de l'autre, il s'est doté d'un régime juridique, la laïcité de séparation, qui garantit la neutralité de l'État et par là même la neutralité de conscience et d'expression, ainsi que l'égalité entre tous les citoyens, qui garantit dès lors pour chacun la liberté de croire ou de ne pas croire, et ce, dans le strict respect des principes et des lois de la République. Et je l'ai dit souvent aux interlocuteurs, et notamment je l'ai souligné lors des vœux qui ont été présentés aux différentes communautés religieuses par le président de la République. Quand on se déplace dans le monde, on regarde la France pour beaucoup de choses, mais la chose qui est très certainement la plus intéressante, c'est de voir qu'on nous regarde pour la façon dont nous organisons notre vie commune. Et que bien souvent, les demandes qu'il y a sur la laïcité sont des demandes de compréhension sur le fait qu'il soit possible de vivre ensemble et d'avoir ce respect dans ce pays, ces tensions qui peuvent exister, mais elles existent partout ailleurs. Mais la façon dont les religions peuvent aujourd'hui, dans notre pays, avoir toute leur place est un élément qui fait que la France est regardée de façon toute particulière dans le monde et bien entendu qu'elle doit continuer à expliquer son modèle d'organisation, à le défendre. Je pense à le défendre bec et ongle pour faire en sorte qu'il puisse véritablement continuer, pour faire en sorte que nous puissions organiser ces débats tels que vous les faites ici ce soir. Parce que nous sommes dans un pays où, dès lors qu'elle ne trouble pas l'ordre public, toutes les sensibilités religieuses ou non religieuses d'ailleurs peuvent s'exprimer et cohabiter sans difficulté. C'est l'enjeu et c'est un des défis, ensemble dans le même espace public. Le ministère de l'Intérieur, je crois, c'est souvent, en tout cas, j'allais dire toujours, employé à défendre et à faire vivre ses principes. C'est au fond le cœur de la fraternité républicaine, celle-là même qui confère son unité à la communauté nationale, par-delà les convictions, les opinions et les croyances de chacun d'entre nous. C'est ce respect de la liberté de culte et de la capacité de chacun à penser ce qu'il veut, qui est pour moi véritablement fondamental pour la fraternité. La fraternité, là encore, j'ai essayé de trouver, comme parlementaire, ça fait 19 ans que je suis parlementaire, j'ai essayé de trouver une loi qui oblige à la fraternité. Je n'ai pas trouvé. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une prescription religieuse qui oblige à cela non plus. Donc la fraternité, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil que simplement un commandement. C'est quelque chose qui est sur la façon dont nous organisons et notre vie quotidienne et notre vie collective. Et notre vie quotidienne a cet enjeu qu'elle doit être collective si jamais nous voulons faire vivre cette fraternité. Et que chacun, il faut le faire avec des règles qui peuvent être différentes sur l'organisation de cette vie quotidienne, sur l'organisation de nos temps de vie, de nos temps de réflexion, de nos temps de prière. Et qu'il faut arriver à coïncider avec ceux qui n'ont pas les mêmes temps, qui ne veulent surtout pas avoir les mêmes temps et pourtant arriver à dégager du commun, arriver à dégager ce qu'on appelle de façon un peu raccourcie aujourd'hui du vivre ensemble. Moi, je trouve que cette expression, ces deux mots sont et les symboles de la loi que nous votons et les symboles de la fraternité que nous voulons. Et c'est pour cela qu'il ne me semble pas assez désuet pour que j'arrête de les utiliser. Le vivre ensemble me semble encore pouvoir être brandi dans ce que nous voulons. Garantir la liberté des cultes, et je ne veux pas m'éloigner trop de la responsabilité du ministre de l'Intérieur, c'est aussi protéger les édifices cultuels et les fidèles qui y sont. Afin de répondre à la menace terroriste, par exemple, ces 800 sites juifs, plus de 1000 mosquées, près de 2800 églises et temples qui ont été placés sous la protection des forces de sécurité et des forces armées. Et c'est la responsabilité de la République, la responsabilité totale de la République que d'assumer cette nécessité de sécurité. Par là même, pour continuer et préparer l'avenir, c'est plus de 9 millions de francs, d'euros par an qui ont été dégagés pour financer les équipements de sécurité dont doivent se doter les sites en question pour, là encore, faire en sorte que la sécurité étant assurée, personne n'ait de raison de brandir cela pour ne pas aller au lieu de culte. Et c'est bien une question qui est fondamentale, je pense, pour vivre au cœur, dans la Seine-Saint-Denis, ce département qui est le mien, au cœur de toutes les communautés qui sont ici, que la restriction d'accès à un lieu de culte est un élément important pour décider de partir, de déménager, voire de quitter notre pays. Et là encore, c'est la responsabilité de la République que d'assurer cette liberté de circulation qui vaut pour tous les moments de nos vies, y compris le moment où nous allons vers des lieux de culte. Garantir la liberté de culte, c'est enfin se montrer intraitable à l'égard des violences, des menaces et des discriminations dont peuvent être victimes certains de nos concitoyens en raison justement de leurs convictions religieuses et de la façon dont ils les expriment. Il n'est pas supportable que dans notre pays, des hommes puissent se faire agresser parce qu'ils portent une kippa, des femmes parce qu'elles portent un foulard. Il n'est pas supportable qu'on mette le feu à des églises ou que l'on profane des cimetières. C'est pourquoi les préfets, et je le leur rappelle, nous le leur rappelons régulièrement, doivent saisir systématiquement les procureurs de la République sur la base de l'article 40 du Code de procédure pénale de tous les actes antisémites, antimusulmans, antichrétiens dont ils ont connaissance. C'est également pourquoi le gouvernement a lancé en 2015 un plan interministériel d'une ampleur sans précédent, doté de 100 millions d'euros, afin de lutter contre le racisme, l'antisémitisme et tous les actes anti-religieux. Enfin, la défense de la liberté de culte, c'est aussi pour un ministre de l'Intérieur de veiller au respect scrupuleux du droit et de rappeler la règle aux élus locaux qui voudraient s'en affranchir, comme par exemple pour empêcher la construction d'un lieu de culte dans leur commune lorsque la religion que l'on y pratiquerait n'aurait pas leur sympathie. Le droit de l'urbanisme sert alors souvent de prétexte commode à des atteintes à la liberté religieuse. De tels cas existent, et là encore, je demande au préfet d'y mettre bon ordre lorsque c'est nécessaire. Ce n'est heureusement pas l'attitude de la majorité des élus, et le ministère de l'Intérieur a élaboré d'ailleurs à leur intention, avec l'Association des maires de France et les représentants de l'ensemble des cultes, un guide leur permettant de s'orienter dans ce domaine complexe. Je ne m'étendrai pas parce que vous savez bien ce qui se passe aujourd'hui en termes de dialogue, et notamment de l'instance de dialogue que nous avons avec le culte musulman, sur le modèle de l'instance de dialogue avec l'Église catholique. La troisième réunion a eu lieu au mois de décembre dernier. Elles s'inscrivent totalement, ces réunions d'instances de dialogue, dans le cadre de la laïcité d'intelligence. Et je ne reviens pas sur les travaux que nous menons aujourd'hui dans ce cadre, qui regroupe d'ailleurs très largement des représentants de chacune des religions ici. Donc les chantiers d'ampleur ne concernent pas, on me dit souvent, les chantiers d'ampleur concernent aujourd'hui l'islam. Non, il y a des chantiers d'ampleur qui concernent l'islam, mais ils ne concernent pas que l'islam, puisque d'importants travaux sont menés en lien avec d'autres cultes. Je pense tout particulièrement à l'accueil des réfugiés, pour lequel des organisations confessionnelles, notamment catholiques et protestantes, se sont notablement investies. Elles se sont totalement investies dans cette tradition du christianisme social, défenseur des plus pauvres et des plus faibles, et ont répondu, et je souhaite que nous les soutenions, aux exhortations du pape François, appelant l'Église et les chrétiens à se rapprocher des périphéries existentielles. Les musulmans ont secouru des coreligionnaires. Les juifs et les bouddhistes ont souvent évoqué le souvenir des persécutions et des exils qu'avaient subis leurs parents et leurs grands-parents, exprimant donc un sentiment de solidarité renforcé à l'égard de ces nouveaux réfugiés qui fuient un nouveau totalitarisme. Mais des associations citoyennes, purement laïques, se sont bien entendu elles aussi manifestées au service d'une cause qui ne peut laisser aucun républicain indifférent et à laquelle nous avons essayé d'apporter une réponse responsable et humaine. Je pourrais citer la collaboration très constructive entre l'État sur les plus démunis, sur la solidarité, car cette fraternité, les croyants, comme d'ailleurs les véritables républicains, ne la vivent pas de façon abstraite. Et c'est un des défis, je crois, qu'il faut toujours continuer à relever, que la démonstration soit faite à tout moment que cette question de la fraternité doit amener à des actes concrets. Je veux rendre à ce titre un hommage sincère à l'action qui est menée aujourd'hui par chacun d'entre vous au service des sans-abri et à l'aide matérielle et spirituelle que vous apportez aux malades et aux personnes âgées, notamment aux périphéries de nos sociétés. Enfin, je veux insister sur le désir, qui est celui du gouvernement, qui est le mien, d'entretenir un dialogue riche et confiant avec chacun d'entre vous et avec le monde universitaire. C'est ce qui fait la richesse de la laïcité. Elle constitue un cadre protecteur qui favorise le dialogue et l'esprit critique. Et je ne peux que saluer certaines initiatives essentielles de dialogue interreligieux, telles que le groupe d'amitié islamo-chrétienne ou l'amitié judéo-chrétienne. Il s'agit là d'initiatives privées, mais qui traduisent un souci profond de permettre la coexistence et l'échange entre convictions dans notre pays. L'autre institut est une autre de ces initiatives qui prouve la vitalité de ces sujets et leur actualité. Pour ma part, j'ai confiance dans les vertus de la laïcité, j'ai confiance dans les vertus du dialogue interreligieux et j'ai confiance dans les équilibres précieux qui sont ceux de notre société. Pierre Nora observait que toute l'histoire de la France peut s'écrire comme un effort permanent pour faire de l'un avec du multiple, du divers, du contradictoire et même de l'incompatible. La laïcité est au cœur de cette histoire et elle est au cœur de cet effort. Je souhaite donc, et malheureusement je vous laisserai ensuite réagir, même si j'ai ici assez d'amis pour me tenir au courant des propos qui seront tenus, et donc que je n'abandonnerai pas le débat au moment où je partirai, et je serai capable de le reprendre avec chacun d'entre vous, mais je souhaite donc que l'Institut des hautes études du monde religieux puisse continuer, bien entendu, ses activités et puisse ainsi permettre la diffusion auprès de publics les plus divers d'un véritable esprit de tolérance et de compréhension mutuelle. Merci pour le travail qui est le vôtre. Merci.
Merci, monsieur le ministre. Oui, oui, merci. Alors, merci infiniment. Si les gens de l'Institut qui sont à la porte peuvent saluer le ministre en partant, ce serait parfait. Merci. Au revoir. Merci. Très bien. Oui. Donc, pour reprendre la continuité de nos échanges, nous avons eu un exposé des situations des religions. Situations à vrai dire très diverses, puisque ben, voilà, il y a des sociologies différentes, des histoires différentes, etc. En même temps, on voit qu'il se dégage un certain nombre de problématiques qui sont communes aux différentes religions et un désir aussi commun de partager, de vivre ensemble, de traiter les problématiques internes, de garder un lien avec d'autres, etc. Et monsieur le ministre a parfaitement rappelé combien la laïcité, finalement, est cet outil qui permet cela, et combien, dans ce pays, il y a une tradition, effectivement, de dialogue, d'échange, de confrontation, d'opposition, parfois. Ricoeur parlait de laïcité, de confrontation. Ben voilà, c'est un petit peu aussi ce que dit Debray avec la laïcité intelligente. Hein. Et finalement, je crois qu'il y a un tronc commun qu'on retrouve aussi dans toutes vos interventions. Donc, bon, voilà, je propose que, plutôt que de vous faire réagir les uns sur les autres, à moins qu'il y ait des envies particulières, qu'on donne la parole au public pour vous laisser interroger, poser les questions qui vous ont traversé pendant ces différentes interventions. Donc, mesdames et messieurs, c'est à vous. Alors, priorité aux auditeurs de la session 3 de l'IHMR. Laurence, c'est très bien. Merci. Et, alors, il y a les micros qui vont arriver. Voilà. Avec Agatha et Astrid. En espérant qu'ils fonctionnent. Ils ont été testés tout à l'heure, ça marchait bien. Astrid, tu peux peut-être passer de l'autre côté, non ? Ouais. Le problème, c'est de mettre en route les micros. Tu peux peut-être essayer, Laurence, son micro.
Je vais le remettre en route.
Ah oui, c'est... On entend bien.
Et après, peut-être d'autres pourront répondre. Ça porte sur la CAVIMAC, donc la caisse des cultes, puisque la filiation y est obligatoire pour tous les cultes. Et non. Ah. Alors, il y aura peut-être une troisième personne qui sera destinataire de la question. J'aurais voulu savoir pourquoi le nombre des musulmans affiliés à la CAVIMAC n'est pas plus important. Et puis, si Monseigneur Beau peut nous faire un état des lieux des congrégations, puisque ça fait partie aussi de l'Église catholique, voilà, peut-être plus spécifiquement à Paris et ailleurs. Merci beaucoup.
peut-être commencer par préciser ce que c'est la Kavimak, hein, parce que là, c'est quand même très technique.
Alors, la question, mais vous connaissez peut-être mieux la question que moi, c'est la sécurité sociale pour le clergé et pour les membres du culte, et je crois maintenant aussi pour un certain nombre d'adhérents aux différents cultes. Donc, il y a à la fois la Kavimak, qui est la structure de la sécurité sociale, et puis il y a la mutuelle, où il y a une diversité de mutuelles, même si dans l'Église catholique, on est principalement à la mutuelle Saint-Martin. Voilà. Mais effectivement, à partir du moment où on est prêtre religieux, religieuse dans l'Église catholique, on est tenu d'adhérer à la Kavimak comme sécurité sociale et comme caisse de retraite. C'est à peu près en taux de cotisation, la sécurité sociale doit faire à peu près... Enfin, le taux de charge est à 6 000 euros par an sur Kavimak. Et je pense, oui, parce que la mutuelle, c'est nous qui payons directement. Donc, caisse de retraite et sécurité sociale. 6 000 euros par an par personne.
Oui. Y avait, à moins que vous vouliez répondre sur les congrégations tout de suite ou...
Non, parce que je suis un peu sec sur la question. Bon, voilà. Je vais essayer de retrouver des idées. Je vais vous laisser répondre d'abord.
Non, juste, donc Kavimak, en fait, si je me souviens bien, le C, c'est pour caisse, le A, c'est pour assurance, VI, c'est pour vieillesse, et MA, c'est pour maladie, quoi. En fait, c'est l'assurance des ministres de culte. Alors, je réponds pour la partie musulmane, je ne me permettrai pas de répondre pour les autres cultes. Mais sur la partie musulmane, effectivement, ça pose la vraie question du statut de l'imam. Aujourd'hui, les imams ont un statut qui n'est pas si clair que ça, et le CFCM doit y travailler, parce que souvent, les imams ont, pour ceux qui ont un contrat, parce que tous n'ont pas un contrat avec l'association gestionnaire de lieux de culte, parfois ce sont des bénévoles, et puis il y a quelques cotisations ou dons des fidèles qui leur sont remis de main à main. Mais pour les associations qui ont établi un contrat avec l'imam qui donne lieu à rémunération, souvent il y a un statut biaisé qui est utilisé, c'est celui d'animateur. Alors que si j'ai bien compris, parce qu'on a fait des consultations d'avocats et de juristes sur la question, normalement un imam ne peut pas être salarié, puisqu'il ne peut pas être de patron, il ne peut pas avoir de patron, son seul patron c'est Dieu. Et donc, il ne peut pas toucher un salaire, il peut toucher que des indemnités. Et donc, il ne peut pas donc souscrire au régime classique général d'assurance maladie, d'où la création de cette caisse dédiée au ministre du culte. Et dans la mesure où il y a beaucoup d'imams qui n'ont même pas de contrat, et pour les imams qui ont un contrat, ils n'ont pas un statut de ministre de culte, mais plutôt un statut d'animateur dans la mosquée. Donc, ils cotisent au régime général et du coup, ils ne se retrouvent pas à la Kavimak. Maintenant, il se trouve que moi, je suis président de la fédération majoritaire au sein du CFCM, qui est le Rassemblement des musulmans de France. Et tous les imams salariés ou rémunérés par le RMF, Rassemblement des musulmans de France, sont affiliés à la Kavimak. Et effectivement, l'ordre de grandeur de la cotisation, il est de cet ordre, c'est à peu près 500 euros par mois pour le régime de base, et pour la complémentaire retraite, ça monte à 700 euros à peu près par mois pour chaque imam. Mais le fait qu'il y en a très peu à la Kavimak des imams, c'est à cause du statut qui n'est pas si clarifié et si généralisé que ça.
Je ne m'attendais absolument pas à avoir une question sur le Kavimak ce soir, mais... La plupart des églises, beaucoup d'églises protestantes sont aussi, les pasteurs sont aussi à la Kavimak, mais mon église, l'église protestante unie de France, n'est pas à la Kavimak. Et je pense que c'est important de savoir qu'à cause de la façon dont les protestants ont adhéré à la séparation de l'église et de l'État en 1905, il n'y a pas eu de... On a dit on va complètement jouer le jeu à ce moment-là. Et du coup, les luthéraux réformés et certaines autres églises protestantes en France ont leur propre système qui est similaire au Kavimak, mais qui n'est pas, on va dire, qui est plus cher que le Kavimak. Mais beaucoup d'églises évangéliques Et aussi récemment, je pense, l'Église de l'Angleterre, qui a un certain nombre de prêtres anglicans ici en France adhèrent aussi à la CAVIMAC, et cela fait rire de temps en temps qu'il faut que le CAVIMAC paye la grossesse d'une femme pasteur baptiste, par exemple. Hein, mais voilà, ce sont des choses qui arrivent. Alors, c'est un règlement qui aide aussi des églises essentiellement évangéliques.
Merci. Autre question.
Ah, oui, bonsoir. Hervé Deguine, je suis issu de la troisième promotion de l'IHEMR. Merci beaucoup pour cette présentation vraiment très intéressante. Ma question sera beaucoup plus générale que celle qui a été posée. On a l'exemple ce soir d'un dialogue, en quelque sorte, entre des représentants des différentes institutions religieuses. Mais dans cet état des lieux des religions en France, qu'en est-il du dialogue entre les croyants de base, et notamment entre les jeunes, entre les différentes religions ?
Qui veut... Ouais. Oui, allez-y, Président.
Non, mais aujourd'hui, effectivement, le dialogue interreligieux est très, très développé entre certaines religions. Effectivement, le dialogue islamo-chrétien est peut-être plus développé que le dialogue judéo-musulman. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire dans le dialogue entre juifs et musulmans. Mais il y a beaucoup de cercles qui se créent dans ce dialogue. Au plus haut niveau, c'est la conférence des responsables de culte en France, la CRCF, qui regroupe deux représentants pour chaque culte, donc les trois familles chrétiennes, catholiques, protestants et orthodoxes. Il y a les musulmans, les juifs et les bouddhistes. Donc deux de chaque, et on se réunit deux ou trois fois, une fois tous les deux ou trois mois, avec un dialogue très très ouvert, très développé. Il n'y a aucun sujet tabou, on a dépassé les préjugés, etc. Et donc on discute de tout, je dirais pas et de n'importe quoi, mais en tout cas on discute de tout d'une manière sereine et tout à fait ouverte. Et notre objectif, c'est, comme vous le dites, c'est de démocratiser un peu ce dialogue pour qu'il descende au niveau des régions, des villes, voire des quartiers. Et par rapport à ça, il y a un certain nombre d'initiatives auxquelles on pense, et notamment faire un certain nombre de rencontres conviviales avec des responsables locaux qui viendraient à Paris pour discuter, pour, je dirais, montrer l'exemple de ce dialogue et qui porte, entre guillemets, la bonne parole dans leur région. Mais il y a également des initiatives de dialogue qui partent de la base. Jeanne soulevait l'exemple de coexister. Coexister est un cadre idéal où il y a des jeunes de moins de 35 ans, de toute confession, croyants et non-croyants, chrétiens, juifs et musulmans pour les croyants, qui se réunissent, qui débattent, qui font des actions communes. Elle est présidée par une très jeune qui s'appelle Radia Bakouche, qui est de confession musulmane, qui fait partie d'ailleurs de l'instance de dialogue avec les jeunes du CFCM. Et donc, ils sont pratiquement partout à travers toute la France, et ils font des initiatives de dialogue qui touchent les plus jeunes. Et ça, c'est plus important, parce que les jeunes, c'est l'avenir de demain, comme on dit. Et le fait de semer ces graines de coexistence et de vivre ensemble dès le plus jeune âge permet de construire un avenir radieux.
Deux observations. Dans la communauté juive, en fait, il y a des mouvements de jeunesse. Je pense par exemple aux scouts, les éclaireuses et éclaireurs israélites de France. Et donc, dans le cadre, par exemple, de ce mouvement-là, je sais qu'il y a des relations entre guillemets interreligieuses, enfin, sauf que les jeunes, c'est pas tellement de l'interreligieux dans le sens de dialogue interculturel, mais c'est plutôt des rencontres, des occasions de rencontres. La deuxième remarque, c'est que le Grand Rabbin de France a émis l'idée, il y a quelque temps, je ne sais pas où ça en est, de faire venir dans les écoles juives, parce que j'ai dit tout à l'heure dans mon propos introductif que beaucoup d'enfants juifs aujourd'hui sont dans des écoles juives, dans des écoles privées en général, mais beaucoup dans des écoles juives. Et il a émis l'idée de faire venir des prêtres, imams, etc., ce qui ne se fait pas aujourd'hui, dans les écoles juives, dans toutes les classes, donc primaire, secondaire, etc., pour essayer justement de sensibiliser au dialogue interreligieux. Voilà, je trouve que c'est une très bonne idée. Je ne sais pas où ça en est, mais pour le moment, qui va avancer sur ce projet.
Je pense qu'il y a une chose à ajouter là.
Je pense qu'on a des très beaux exemples. Alors, le scoutisme, effectivement, est un bel exemple, et surtout les camps même groupés avec du scoutisme de différentes confessions. Il y a effectivement l'association Coexister, Il y a le train de la mémoire, par exemple, où plusieurs établissements scolaires privés de confession juive ou privés de confession catholique se retrouvent ensemble sur le train de la mémoire pour se rendre à Auschwitz et vivre ensemble dans, pendant 3 jours cet itinéraire. Donc on a énormément d'exemples. Il y a un autre exemple qui est beaucoup plus large, c'est ce qui se passe dans chaque école et dans chaque classe. Parce que dans beaucoup d'établissements, d'établissements publics, dans les cours de récréation ou à la cantine, ils parlent de leur religion entre eux. Et c'est un sujet. Alors, il y a des établissements scolaires qui sont plus ou moins faciles en dialogue, mais, et je dis ça, que ce soit des établissements privés ou publics, hein, c'est pas du tout sur cette frontière-là que je me place. Il y a des établissements publics où c'est difficile, il y a des établissements publics où c'est vraiment un vrai lieu d'échange entre eux. Mais c'est pour dire que les jeunes aujourd'hui, ils ont l'expérience de ce dialogue-là. Ce qui est important, c'est de leur donner la possibilité de parler à la génération d'au-dessus de la manière dont se vit ce dialogue. Et je pense que c'est là où il y a une vraie difficulté. C'est quelquefois, ils n'arrivent pas à redire, ils n'ont pas d'interlocuteur d'une génération au-dessus, même leurs parents, auxquels ils peuvent raconter comment se passe ce dialogue. Sinon, il y a un vrai désir de dialogue extraordinaire. Et je pense qu'il y a une vraie génération chez les jeunes et qu'on a des vraies expériences aussi de vie fraternelle. Je pense, puisque Monsieur le ministre faisait référence à l'accueil des personnes sans domicile, je pense à des colocations entre personnes sans domicile, anciennement sans domicile, puisqu'on les accueille dans les colocations, et jeunes professionnels, dans lesquelles, dans les personnes sans domicile, il y a toutes les confessions religieuses, et c'est sans choix, en fonction de la confession religieuse. Je pense aux associations comme Lazare ou l'Association pour l'amitié, qui donnent une vraie expérience de fraternité entre les religions, parce que ça accueille tout le monde. Et je pense que là, nous avons des beaux exemples, et je pense qu'il y a beaucoup plus d'exemples de fraternité non institutionnelle chez les jeunes que ce que nous faisons, nous, qui sont plus institutionnels. Et je pense que c'est important que nous, qui travaillons plus dans l'institutionnel, nous sachions voir toute la richesse du non-institutionnel qui est finalement le cœur d'une société.
Moi, je voulais juste rajouter à ces différents exemples l'exemple de la mobilisation interreligieuse et citoyenne concernant la COP21 l'année dernière, ou en 2015, là maintenant, mais tout le travail qui est en train d'être entrepris au niveau de l'écologie et du climat on a vraiment fait un effort au niveau institutionnel de le faire porter par toutes les religions, mais ce sont les jeunes qui nous ont montré le chemin. C'est pas, et là, c'est aussi un vrai défi intergénérationnel, de justice intergénérationnelle. Ce sont les jeunes, ce sont en grande partie aussi les scouts en France et les éclaireurs qui nous ont vraiment montré le chemin. Là. Et ils sont aussi en train de s'engager dans l'accueil des migrants. Je pense à Lampedusa en Italie, par exemple. Ce sont de jeunes qui accueillent les migrants. C'est interconfessionnel, c'est interreligieux. Et ils ont peut-être des choses... Ils ne veulent pas forcément faire le débat savant. Ils font des choses ensemble. Et je pense qu'ils trouvent des choses à faire ensemble. Et je pense que ça, c'est important à voir pour nous.
Cette notion de faire ensemble. Oui. On peut citer aussi l'association Enquête, qui est représentée ici par Eric Vincent, qui est également membre du CA de l'IHEMR, qui fait un travail remarquable avec des tout-petits sur l'apprentissage des différents signes religieux. Je complète aussi en disant que vous avez tous insisté sur l'importance de former les gens sur leur propre religion pour que le dialogue soit réellement fécond. C'est une condition préalable pratiquement au dialogue, être bien formé dans sa propre conviction pour là que l'échange et la relation soient bonnes.
Bonsoir. Je voudrais partager une interrogation personnelle. Ce ne sera pas forcément très
parce que je vous présenter en
Oui, pardon, c'est Stéphane Bazin, je suis un auditeur. J'hésite à dire libre, parce que je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Non, je m'interroge sur la question de la laïcité, parce que, en fait, ma question, elle est pour vous tous, représentants de tous les cultes. Vous avez introduit, Monseigneur, la soirée en disant que, finalement, la question de l'homme et la réflexion sur l'homme et son devenir qui est posée en question. Et en fait, je dirais tous les quatre et tous vos ministres, vous interrogez toute l'année là-dessus et vous demandez comment traduire ça auprès de vos communautés pour que ça se traduise dans une vie pour un bien commun, en fait. Et monsieur le ministre, l'autre ministre, lui s'interrogeait sur est-ce qu'il y a une loi qui pourrait prescrire la fraternité. Et on voit bien la limite des lois. Un état de droit, il ne peut que le droit, en fait. On sent bien qu'il y a une sorte de limitation. Et donc, vous avez un rôle. Vous disiez, il faut que ça s'incarne, Monseigneur. Vous disiez, il faut que ça s'incarne dans une anthropologie. C'est le moyen. Sauf que de l'autre côté, le système, je dirais, qui pense le bien commun pour le traduire dans des lois lui-même, il est aussi limité en s'interdisant, enfin en s'interdisant en tout cas, en n'ayant que les instruments du droit. Et donc, est-ce que la laïcité, c'est à la fois, c'est là mon interrogation, cette complexité, c'est-à-dire, au fond, elle est à la fois un système qui permet l'exercice libre des convictions, des dialogues ou autres, mais en même temps, elle est aussi un plafond de verre parce que dans notre histoire nationale traumatisée par ces questions-là, finalement, on a l'impression d'avoir une administration générale du pays qui ne se nourrit pas de toutes ces recherches. Et comme si, d'ailleurs, dans tous les propos que vous avez eus ce soir, finalement, il n'y a pas l'interrogation sur, je dirais, le fait politique, au sens tout à fait noble du terme, c'est-à-dire comment nourrir, comment vos recherches, les pratiques, vos religions, et qui conduisent tous à cette quête, peuvent quand même inspirer, beaucoup plus que ça n'existe, en tout cas visiblement, finalement, la source des lois, pour quand même qu'elles puissent nourrir ensuite nos besoins de fraternité dans nos vies quotidiennes.
Moi, je verrais deux réponses. Je vais d'abord donner une réponse rapide pour la question des religieux et religieuses. Actuellement, il y a 29 433 religieuses. Ça a divisé, c'est deux fois moins en 14 ans. C'est-à-dire que ça s'est divisé par deux. Et au point de vue des religieux ou des moines, il y en a 6500 et ça a baissé de 4000 par rapport à 12 ans avant. Donc c'est une différence nette. Alors pour répondre à la question, je répondrai deux choses. La première, c'est quel est le lieu du dialogue interreligieux? Je pense, parce que c'est une question importante, je dirais qu'il y a deux éléments. Il y a l'élément de connaître sa religion personnelle pour avoir la liberté de ne pas se sentir atteint ou blessé ou vulnérable par les questions des autres, c'est-à-dire avoir ce dialogue qui permet d'avoir une certaine assurance personnelle qui nous permet une liberté dans le dialogue. Mais le vrai lieu du dialogue interreligieux, c'est je ne vais pas demander, je ne vais pas dire au président du CFCM, je ne suis pas d'accord avec vous sur telle ou telle question du Coran ou sur tel ou tel aspect ou place de Mahomet. Je n'ai pas à avoir une remarque ou une critique sur ce que j'appellerais les dogmes qui sont ceux du culte musulman. Ça ne serait pas respectueux et je pense que ce n'est pas le lieu du dialogue interreligieux. Le lieu du dialogue interreligieux ne peut. C'est comme s'il me disait, dans le dialogue interreligieux, je ne suis pas d'accord avec vous sur le Christ, vrai homme et vrai Dieu. Je dirais, ça ne le regarde pas. C'est peut-être son problème, mais ce n'est pas le mien. Moi, j'y crois. Par contre, être capable de traduire sa foi dans un langage anthropologique commun et comment ce langage anthropologique commun peut donner une adhésion commune à un bien commun de la société. Ça, c'est notre responsabilité. parce que toute foi se traduit par une manière de vivre dans la société. Et donc comment cette manière de vivre, qui est l'expression d'une anthropologie, va permettre l'avènement d'un bien commun de la société. Et donc c'est ce lieu-là qui, pour moi, est le lieu du dialogue interreligieux au service de la société, au service de l'autre.
Juste un complément dans la continuité de ce que vient dire Mgr Jérôme Beau. Le dialogue interreligieux, il représente ou il peut passer par trois postures. Il y a une posture, et ça je l'ai expérimenté, je l'ai vécu dans ce qu'on a appelé le forum des cadres chrétiens et musulmans, qui a rassemblé un peu un certain nombre de cadres musulmans de France et plus précisément à Paris, et des représentants du mouvement chrétien des cadres. Nous avons créé un forum avec une rencontre annuelle autour d'un dîner et avec des cadres chrétiens et musulmans, et on discutait d'un certain nombre de thèmes. Et donc nous avons commencé par un dialogue face à face, entre guillemets. C'est-à-dire chacun parlait un peu, à la limite, répondait aux questions que se posait l'autre en face sur son propre dogme. Mais là, c'était un dialogue qui était convenu entre nous, qu'on s'est mis d'accord pour parler de ça. Et donc ça a permis aux musulmans de poser un certain nombre de questions sur la Trinité, sur un certain nombre de choses. Et aux chrétiens, ça a permis aussi de parler sur la signification du voile, du port du voile, sur la position de Jésus ou de Marie dans la religion musulmane, etc. Et donc ce dialogue respectueux et fraternel a permis de dégager un certain nombre de préjugés et de les dépasser par la suite. Et après, on est passé à une deuxième phase qui est un dialogue côte à côte. C'est-à-dire, on prenait des sujets de société qui étaient posés à la société française, et en tant que croyants, chrétiens et musulmans, on répondait alors sur des questions sur la fin de vie, sur l'euthanasie, sur le don d'organes, sur la violence, sur la position des femmes dans chaque religion. Et donc ces questions-là nous interpellaient tous en tant que croyants, et on avait une discussion côte à côte par rapport à ces sujets-là. Et nous sommes partis finalement arrivés à une troisième posture qui est le fait d'agir ensemble. Quel projet commun on peut faire ensemble en tant que croyants? Et là-dessus, on s'est engagé sur un certain nombre de choses, notamment sur des actions d'accueil de réfugiés, etc. Et donc, ça reflète un peu les différentes postures qu'on peut avoir dans le dialogue religieux, face à face, côte à côte, et agir ensemble. Et bien sûr, dans le dialogue institutionnel, on n'a pas à rentrer dans la critique, dans le dogme de l'autre, mais si on se met d'accord sur le fait qu'on est là pour en parler, pour comprendre, pas pour juger, mais pour comprendre, là, ça prend tout son sens.
Pardon, en fait, je me suis mal exprimé, parce qu'effectivement, merci pour les réponses. En fait, c'était plutôt une question, pas tellement sur votre dialogue entre vous, mais sur comment, par rapport à la société sécularisée, en fait, voilà, ce qu'on vous propose, c'est de vous brancher sur du neutre, parce que le terme de neutre, laïcité neutre, en fait, ça conduit à l'Europe du neutre. En fait, les sociétés sécularisées européennes, elles ont beaucoup de voix. Elles ont besoin de courant, en fait. Et c'est vous, les religions, en fait, avec toutes vos recherches, qui peuvent apporter ce courant. Et c'est en cela que je trouvais que le terme de laïcité neutre était aussi assez... À la fois, elle organise la liberté, mais elle est aussi assez défensive et elle tue cette source de vie et qui peut conduire ensuite à la violence, parce que le neutre, et en particulier la radicalisation des jeunes, c'est aussi une réponse à ce vide... Qui est aussi un peu dans ce neutre.
C'est pour ça que Bruno Leroux a parlé de laïcité éclairée ou intelligente, hein, citant Régis Debray, ce qui est autre chose qu'effectivement qui n'a rien à voir avec une laïcité de neutralisation ou de cryogénisation et d'absence de toute possibilité spirituelle dans l'espace social, qui, on le rappelle, la loi fait que l'espace social, lui, n'est pas laïque, hein, il est libre, justement. C'est l'essence de la laïcité. Est-ce qu'il y a une ou deux dernières questions, peut-être, avant qu'on libère nos intervenants qui ont déjà...
Je vais juste reprendre...
Ah oui, pardon, vous aviez peut-être...
Non, non, je pense que votre question, c'est un peu, est-ce que le dialogue interreligieux peut changer le monde? Est-ce que cela peut changer notre... Et il peut, mais il n'est pas seul à pouvoir changer le monde, je pense. Et il doit faire partie, c'est un des maillons de se vivre ensemble, où moi je suis beaucoup plus prudent à utiliser ce terme que d'autres, mais et je ne suis bon, c'est moi qui ai utilisé peut-être plus le terme de neutralité concernant la laïcité. Je pense que je préfère parler de la séparation du religieux et de la religion et de l'État plus que de parler de laïcité, parce que le terme laïcité est vraiment utilisé à tellement de différentes sauces. Je pense que nous pouvons changer des choses à travers notre dialogue interreligieux, et c'est une responsabilité, et nous essayons de dire, nous pouvons... Et c'est pas seulement que nous pouvons nous parler. On n'est pas en train de parler ensemble. On est en train de faire des choses ensemble. Je pense, par exemple, je parle de la Grande-Bretagne. Il y a des imams et des prêtres anglicans qui organisent des matchs de foot ensemble. Le dialogue interreligieux n'est pas seulement le fait que des hommes se parlent. C'est aussi des femmes qui se réunissent autour du Coran et de la Bible et qui échangent des recettes de cuisine, par exemple. Et cela change la façon dont ça ajoute, ça donne une valeur ajoutée à la société. Et en ce moment, je pense, la société a besoin vraiment de cette valeur ajoutée. C'est en connaissant son voisin qu'on va aussi pouvoir avancer.
Merci, Madame la Pasteur. Il y a une dernière question, Yehuda.
Oui, bonsoir. Yehuda Berdugo,
auditeur de la troisième session.
Et auditeur de la troisième session. Je pense que le dialogue interreligieux a vécu. Il a quelques années, quelques décennies, et même un peu plus. Et je pense personnellement qu'il faudrait revoir ce dialogue interreligieux. Nous voyons que les choses n'avancent pas, n'évoluent pas, et il y a lieu peut-être de réfléchir autrement. Je lance une idée qui est certes avec les mêmes composantes, puisque nous sommes là, vous êtes là, pourquoi ne pas simplement revoir toute la définition même de ce qui ne serait pas un dialogue, mais une évidence. Voilà. Une évidence. Ce n'est pas un dialogue. Le dialogue, on n'a plus besoin de dialogue. Nous sommes là. Nous existons. Chacun a son espace dans l'espace et dans le temps. Donc nous avons besoin de quelque chose d'autre pour avancer. Quelle est cette évidence? L'évidence, c'est de dire, nous croyons, nous sommes une religion monothéiste, d'accord? Nous croyons en un seul Dieu. C'est Dieu qui a créé. Voilà. Comment justifier un Dieu et plusieurs manières de servir ce Dieu-là? C'est la question fondamentale sur laquelle on essaye d'être dans des nuages et la contourner. Mais allons droit au but. Pourquoi un seul Dieu et plusieurs religions? L'idée, mon idée est de dire que nous sommes, nous voudrions donner un exemple, une image d'un chef d'orchestre. Vous avez plusieurs instruments de musique, plusieurs groupes qui vont jouer d'un instrument différent. D'accord ? Si chacun devait jouer sa partition, mais d'une manière nette, d'une manière posée, etc., nous avons une musique qui tient le coup, nous avons un son qui est agréable, et nous regardons tous, tous ceux qui, les composantes de cet orchestre-là, regardons tous le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre étant Dieu. Et tout le reste, nous sommes là à essayer d'apporter au monde ce que Dieu voudrait. Mais une seule personne, une seule religion ne peut pas le faire à elle toute seule. Donc nous avons besoin de tous ensemble, le faire. Et je pense que le dialogue est de dire, ce n'est pas un dialogue, mais une évidence. Vous, qu'est-ce que vous avez apporté? Qu'est-ce que vous avez apporté? Quelle est cette qualité spécifique que vous voudriez diffuser? Pour le peuple juif, je la connais. Le peuple juif a une seule et unique mission dans ce monde. Si vous remarquez...
Yehuda, pardon de t'interrompre, mais il faut vraiment aller à la question et conclure un petit peu, parce que c'est pas, là, c'est un développement que tu fais, ça peut nous amener très loin.
D'accord, excuse-moi. Donc, est-ce que l'évidence est que chacun a un rôle principal, celui du peuple juif?
Les spécificités de chaque religion, c'est ça, que chaque religion puisse dire aux autres les spécificités, voilà, la richesse qu'elle apporte.
Le peuple juif, c'est l'unicité de Dieu. Pour les chrétiens, c'est l'amour du prochain. Pour les autres, ouais. On définit. Et puis on avance. Grosso modo, merci de votre attention.
Merci. Je crois qu'on est tous d'accord pour avancer. Enfin, voilà. En tout cas, c'est bien ce que vous avez fait ce soir. Je propose de conclure. De conclure, non pas sur cette conclusion, mais sur ces échanges. En vous remerciant infiniment, d'abord, Mgr Jérôme Beau, pour votre accueil ici, aujourd'hui, de nous tous. Monsieur le rabbin Michael Azoulay, merci de votre intervention à chaque fois précise et bienveillante. Monsieur Anouar Bibesh, qui prend toujours le principe d'être très complet et sur ses interventions et qui donne énormément d'éléments. Donc un immense merci pour ça aussi. Et pour votre disponibilité à chaque fois. Et enfin, Madame la Pasteur, pour votre délicatesse et vos propositions à vos collègues, notamment... en regard des défis à relever dans chaque religion, en particulier la place des femmes. Un immense merci, madame. Merci à vous tous, cher public, chers auditeurs et auditrices, madame, monsieur le sénateur, monsieur le président de MJLF. Je vous propose de nous retrouver juste derrière pour un pot, voilà, pour un petit cocktail. Comme ça, vous aurez l'occasion de discuter les uns avec les autres, avec nos intervenants s'il reste un peu, avec les auditeurs, avec des gens de l'Institut. Voilà. Merci beaucoup à vous. Bravo. Est-ce que Cyril, tu peux venir, s'il te plaît, pour une photo? Agatha, tu pourras prendre des photos pour le cocktail? Pendant le cocktail. Donc on se met où? Comme ça?
Vous voulez qu'on se descende? On descende et qu'on soit dans
le... Non, là c'est bien.
Cyril, tu peux venir s'il te plaît?
Ben oui, c'est bien.
On va se serrer un tout petit peu plus.
C'est mieux. Hein.
Ouais. Par là?
Mais vous allez nous prendre de bas alors, vers le haut? Vous allez voir d'abord les bouteilles et les...